C'est pas le bon micro. Je sentais que le son était un peu comme étouffé. Non, pas mute. Disons que le bon micro était à peu près 1,50 m de ma bouche, quoi. C'était. Ouais. Oui, je disais bienvenue dans cette dernière journée de 2020. Quelle année c'était? 2025, cette année. J'aime bien l'année qui vient, là. J'ai toujours aimé les années rondes. Les années paires de, je sais pas pourquoi, 2026, voilà. Je sais pas ce que vous pensez de cette année qui arrive, mais je sais pas, je trouve que c'est un joli chiffre. Et c'est la dernière matinée, Étienne. La dernière revue de presse. 2025 était un carré parfait. Ah, c'était un carré? Un carré de quoi, du coup? Qui sera devant Netflix à 2h du matin? Pourquoi il y a quoi, Caroline, à 2h sur Netflix? 45 au carré? Incroyable. Ok. Oui, 2026. Oh, on a déjà le sommaire. Non, c'est trop tôt. Trop tôt le sommaire. Je vais vous le mettre dans un instant. Stranger Things, il y a. Ah, dernier épisode? Ok. Bon, moi, la série me fait un peu peur. Mais j'ai beaucoup aimé la première saison. Mais je sais pas, il y a des bêtes dedans qui faisaient un peu peur. Et à tort ou à raison, j'ai arrêté de regarder. Sans doute à tort d'ailleurs. Hier, j'ai vu un film. Est-ce qu'il était coréen? Je sais plus. Sur Netflix. Un truc avec de l'eau. Qui parle d'inondation. Attends, je vais vous dire ça. Un film assez étonnant. Je me suis réveillé d'une traite, ce qui m'arrive assez rarement. Submersion, voilà, ouais. Exactement, Submersion. Film étonnant. Ouais. Submersion. Attends. Et pas mal. Un film assez étonnant. Submersion. À tort ou à raison, j'ai du sud-coréen, mais. Coréen, exactement. C'est ça. Ok, d'accord. Quand une inondation cataclysmique submerge. Putain, vivant 2026. Hein. Submerge l'humanité. Une mère désespérée découvre que les vagues porteuses de danger contiennent aussi un secret qui pourrait tout changer. J'ai pas tout compris dans le film, mais j'ai bien aimé. Voilà. Quelqu'un me dit numéro 1 en ce moment, je vois numéro 2. Numéro 2 des films. Mais bien, bien. Ouais, Submersion. Salut Samuel, est-ce que tu peux faire une dédicace à mes grands-parents? Ils t'adorent, ils s'appellent Françoise et Noël. Est-ce qu'ils sont là, Midas, le goat, en ce moment? Françoise et Noël, c'est ça? Ok. Tu clips, hein? Françoise, Noël, bonjour, c'est Samuel Etienne, j'espère que vous allez bien. J'ai l'un de vos petits-enfants, Midas le Goat, c'est son pseudo, dans mon chat Twitch ce matin, cette dernière journée de 2025. J'espère que cette année s'est bien passée pour vous, qu'elle se termine bien, que vous allez passer le réveillon auprès de ceux que vous aimez. Et je vous souhaite une douce, lumineuse et chaleureuse année 2026. In, out, t'as ton clip. C'est pour faire évoluer l'IA, le film, hein? C'est-à-dire. Ok. Merci Samuel pour toute cette année avec des lives qui donnent le sourire malgré des nouvelles souvent tristes. Merci Nicolas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Puisque ce samedi, pour la première fois de l'histoire de cette chaîne, une nouvelle revue de presse, déjà la revue de presse le samedi, ça n'est pas souvent, ce sera samedi après-midi. Une revue de presse des bonnes nouvelles. Car régulièrement, vous me dites, Samuel, c'est bien gentil, l'info le matin, mais souvent des mauvaises nouvelles, des crises, des guerres, des drames, des soucis. Est-ce que tu pourrais pas nous mettre de temps en temps des bonnes nouvelles? Oh, Raphaël, je reviens à toi. Raphaël, je suis content que tu vois que tu es avec nous, Raphaël. Avec Lilou, qui vous savez qui. Et samedi, je vous propose un nouveau rendez-vous. Je vais essayer de le faire tous les samedis après-midi. Une revue de presse des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que toute la semaine, je mets de côté des infos positives, des initiatives sympas, des infos qui nous font espérer en l'humanité, ce genre de choses. Eh ben, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, samedi après-midi, je vous fais ça. Oui, il y avait un jeune homme qui était avec nous ce matin, qui est Raphaël. Raphaël, on a bien pensé à toi ici. Je pense que ta maman t'a montré les petits extraits et puis tous les gentils messages du chat et tous les cœurs que tu as reçus. Raphaël qui a subi une opération importante il y a quelques jours, dont je sais que il a vécu ça avec énormément de courage. Et Raphaël, voilà, on est très heureux que tu sois avec nous et j'espère que tu vas bien et ta maman aussi. Salut Bouillotte de Sleep, espèce de pseudo de Gaude va. Merci Alexia, un de mes pseudos préférés sur cette chaîne, désolé. Désolé pour les autres. Mais ce pseudo magnifique. Merci Alexia. Merci Renifleur de Paix pour le 48e mois. Merci Erwin pour le 15e mois. Allez, je vous laisse, c'est mon petit plaisir. Et puis on va attaquer cette revue de presse. J'ai des infos intéressantes ce matin. Merci Woody. Merci pour ton gentil message. Merci Pompidou 2027. Tu penses que Pompidou a ses chances pour 2027? Tiens, on va parler un petit peu de politique ce matin, mais vite fait, on va pas y passer la matinée non plus. Salut Sam, tu es parti trop tôt de Franche-Comté, il fait moins 12 ce matin, lol. Moins 12? Sérieux? C'est pas possible ça. Mais genre, il y a un endroit en Franche-Comté là où on dit que c'est l'endroit le plus froid de France, là, un peu sur les hauteurs, comment ça s'appelle? Là, par là, tu veux dire. Mais pas en pleine, je pense. Alors, la maman nous donne des nouvelles. Oui, Sam, il va bien. Les greffes ont bien pris. Donc, top, on fait les pansements tous les jours avec infirmier. Dans une semaine et demie, on revoit le chirurgien pour voir si on commence la rééducation. Mais tout va bien, il n'a pas mal. Il vous embrasse. On vous embrasse tous les deux. Ah, Mout, voilà. Mout. Mout en Franche-Comté. Mout. Peut-être dans le Jura, ça. Ça. Il fait très, très froid là-bas. Mout. Je crois que ça crie Mouth. Mout. Non, c'est à Luxeuil, en Haute-Saône, moins 12. C'est fou ça. C'est dans le Doubs, Mout? Ah, c'est pas dans le Jura? Ok, d'accord. Merci. Merci Planetscape Sigil. Que fais-tu pour le réveillon, Samuel? D'abord, je vous souhaite un très bon réveillon ce soir. Pour ceux qui le fêtent, parce qu'il n'y a aucune obligation, et à aucun moment on est obligé de fêter la nouvelle année, le réveillon. Pour ceux qui le souhaitent, je vous souhaite un bon réveillon. Moi, je vais avoir le meilleur réveillon possible, puisque je serai avec mes deux petits garçons et avec mon amoureuse, et on va fêter ça de façon très chill, en famille, un petit dîner tous les quatre, soirée dessin animé ou gaming, ou soyons fous, les deux peut-être, et ça va être très sympa. Voilà. Alors, est-ce qu'on va tenir jusqu'à minuit? Oui, si on joue, s'il y a du gaming, oui. Je me demande si à un moment, elle n'avait pas émis le souhait qu'on aille. Il n'y a pas des feux d'artifice? Sur les tirer autour de l'Arc de Triomphe sur les Champs-Élysées là. Je me demande si on va pas essayer de sortir. Tiens, je vais essayer de trouver ça. Pour aller voir ça. C'est ça, hein? Alors, horaire. Feu d'artifice. Champs-Élysées. h 50. Minuit. Minuit. Alors il y a Kev dans le chat qui dit il n'y en a pas cette année. Et il y a le Parisien qui a dit hier que c'était à minuit. Suis sur le site de la mairie de Paris, tiens, on va voir les infos. Site de la mairie de Paris, c'est pour un feu d'artifice à Paris, ça me semble plutôt une bonne source. Cette année encore, Paris fera scintiller la soirée du 31 décembre. J'ai l'impression que. Attends. J'ai l'impression que les infos de chat étaient périmées. L'Arc de Triomphe se transforme en écran géant pour un mapping. C'est quoi ça? Monumental. Avant le traditionnel feu d'artifice. Bon, a priori, il y a feu d'artifice. Ils disent même par où faut arriver. Oula, c'est tout ce qu'il faut pas amener là. Mapping, ah, c'est ça! La projection d'image sur bâtiment, c'est ça.
D'accord, ok.
Ok. Ok, a priori, il y a un feu d'artifice qui est là, quoi. Je crois que c'est à cause d'un tweet fake news qui a spread. C'est bizarre parce que pourtant, les infos sur Internet, notamment sur notre réseau social préféré, X, en général, c'est pourtant souvent de qualité, hein. C'est étrange. Avec un hommage au Ballon d'Or? Ok, excellent. Merci Lolo des Bixels, comment vas-tu? Merci pour le... Pour la vache, 51e mois d'abonnement. Merci Sein822 pour le 7e mois. Merci Flox. Merci pour cette pluie de sub, vous êtes trop gentil. Ah, des images sur l'Arc de Triomphe, d'accord, ok. Je viens de faire ma première nuit dans un nouvel appartement, ça fait bizarre. Est-ce qu'il est bien, Framboise? Merci Norskorig pour le 44e mois. Et vous, alors, bon, moi, mon réveillon, il est calé. C'est famille. C'est petit plateau repas gaming dessin animé. Vous, qu'est-ce qu'il y a de prévu ce soir? Chill, maison, fête, énorme soirée, famille, amis, réveillon en couple. Excellent, ça. Joyeuse Pâques, Jérôme. Pareil, mais sans gaming. Rien, soirée poker. Dodo seul, le classique. Ok. Rien du tout sous la couette. Aucune obligation en le réveillant. Hein. Petite raclette avec des potes, trop bien ça. Raclette. Ah, la raclette. Mais c'est moi ou la raclette, c'est beaucoup plus tendance qu'avant, non? Rien, soirée pote classique, bourguignon avec des amis, chill maison, soir entre amis, famille, mes flemmes d'y aller. Bah, les artistes! Déjà dans mon petit bled, quand il y a des trucs comme ça, je deviens à moitié agoraphobe, mais à Paris, je pourrais plus. Avec des amis en Espagne, à Saint-Sébastien. Soirée, jeu de société, fête avec mes collègues de taf, maison solo, chill, on va voir Avatar le soir. Au travail pour la nuit, réveillon avec le collègue, Norskorig, courage, force, grippe, Rakian. Oh, force. J'ai pas d'amis néono, mais tu nous as nous. Petit champagne, bouquiné sous le plaid pour Lilou, vous savez qui. Chill avec ma femme avec un bon repas. Pardon, je suis désolé. En cours d'organisation de côté de Tata Yoyo, il est jamais trop tard. 10h toi le 31 décembre. Chill avec les parents. Netflix et Twitch. Énorme soirée du côté d'Express. Il faut que tu nous en dises un petit peu plus. Soirée, femme et enfant. Je fais des cartons, je déménage lundi. Raclette gaming avec un pote. Oh, je suis pas malade, mais j'ai un petit, chopé un petit virus respiratoire là qui me fait tousser. La phrase est géniale. La phrase est géniale. Je ne suis pas malade. Mais j'ai chopé un petit virus respiratoire qui me fait tousser. Cette phrase est insane. Soirée avec amoureux, belle famille, les potes. Gaming stream. Famille avec raclette. Raclette. En couple avec fondue fromage tomate. Tiens, tu es en couple avec une. Tu es en couple avec une fondue. Non, ça va pas être ça. Ah, ok. Elle focus force à la famille. Ark Raiders, soirée en couple à Dublin, soirée avec femme et enfant, raclette, raclette. Bruno Boomer, perso chill raclette avec mes gosses, on va être aînés. Leur Switch 2, je vais prendre un spray, hein, je vais pas vous tousser dans les oreilles comme ça toute la soirée, hein, toute la matinée. Je vais encore m'énerver sur Mario Kart. Mondor, un peu d'originalité là, hein, dans ce. On juge pas Samuel, on a le droit d'être en couple avec une tomate si elle est consentante. C'est vrai. Mondor, Chamallow, bravo. Soirée LOL du côté de Barnet. On va se miner la tronche du côté d'Excelsior. Raclette du rêve. Mais c'est quoi cette tendance raclette? Mais avant, on mangeait pas autant de raclette, non? J'ai l'impression qu'une soirée sur deux, c'est raclette. Soirée sexe du côté de Snoopix. Bonne soirée. Est-ce que tu stream demain? Oui. Oui, en fait, ce que je ferais, c'est que je mettrais le réveil pour voir s'il y a des journaux. S'il y a des journaux, je vous fais une revue de presse du 1er janvier. Ouais. Stranger Things, donc 2h du matin, avec raclette ou pas, baguette? Est-ce que tu as déjà regardé la. Est-ce que tu as regardé la. Pardon. Je vais prendre un spray pour pas tousser. Qu'est-ce que je lisais là, à l'instant là? J'en parle à toi. Ah, il y a trop de messages, attendez. Parce qu'en fait, j'ai eu un petit virus respiratoire qui m'a irrité les poumons. Et en fait, ça me fait tousser, donc je suis pas malade du tout. Mais j'ai pas envie de vous tousser pendant 3 heures, quoi. Donc ça, en général, ça supprime un peu la toux. Bah écoute, ok, ça devrait le faire. Une petite dernière pour la route. C'est quoi cette. Pourquoi tout le monde depuis hier me parle de la dernière vidéo de Seb la frite? Pourquoi elle est particulière, elle est sympa? Elle est sympa? Il a parlé des sous-entendus des chansons. C'est une vidéo sur les dérapages des vieux chanteurs. Très bonne vidéo, mais glauque. Ok, elle est horrible. Regarde là, elle est intéressante. Ok. Ok, d'accord. Je reviens aux soirées. Donc, soirée drag queen du côté de Homo Yili. Je serai un drag king et je vais faire Donald Trump. On veut des images. On veut des images. Fleur de licorice, raclette en famille. C'est quoi cette hype de la raclette? Très bonne vidéo à mettre au nez de ceux qui disent toujours c'est mieux avant, c'était mieux avant. Et bah pas vraiment, ok. Tu vas faire quoi demain s'il n'y a pas de journaux? Bah pas de revue de presse. Mais je vais vous trouver un truc. Je vais vous trouver un truc, je vous ferai un truc demain matin. Attendez, on va pas commencer 2026 sans revue de presse. Je fête mon retour au skatepark pour le nouvel an. C'était le Wispy. La raclette, quand c'est hype, parce que c'est. Pourquoi c'est hype la raclette, me dit Géo Pego? Parce que c'est rapide et c'est bon. Ok. Du coup, réaction de Neono39, c'est bon, vous m'avez chauffé. Je me fais une raclette en solo ce soir. Soirée à trois, ma femme, ma belle-mère et moi, du Yotchupi. Notre fille, c'est au Japon. Notre fille travaille, elle est infirmière. Bon réveillon à tous. Bon réveillon à ta famille, mon ami. Raclette. Le seul plat dont on me parle, il y a une exception Mont d'Or tout à l'heure, c'est raclette. Et moi, soirée famille avec mes petits loulous et mon amoureuse. Merci Wixtos pour le Prime. Merci Décadrame. C'est drôle. J'aurais dû investir sur le marché de la raclette. Merci Gwendoline pour ton gentil message, qui fait très plaisir. Je viens de le voir à l'instant. Je suis sur deux chats. Sur le chat en instant T, instant réel, en train de défiler. Et je suis en train de remonter dans le chat pour tous les messages que j'ai ratés pendant que je me faisais mes petites soufflettes. Ah, parce que la raclette, c'est facile, pas beaucoup de préparation à faire quand on est nombreux. Raclette froide sans les patates du côté de Fabricadon. 3 mois d'avance d'abonnement pour Bouillotte de Slip. Ça fait plaisir. Et n'oubliez pas de regarder les vœux de Macron par contre. Alors, j'ai eu un moment ce matin, j'ai vu dans la presse ce matin qu'il y avait, il y avait les vœux de Macron, traditionnels, aux alentours de 20 h, je crois, et je me suis posé la question. Vous voyez jusqu'où va comment dire, ma passion pour l'information. Je me suis posé la question. Est-ce que je vous stream les vœux présidentiels ce soir à 20 h avec débrief? Non, non. Et en fait, cette interrogation, elle a été très très courte. Je veux dire, à quel moment au moment où je dois être avec mes loulous et mon amoureuse pour dîner, pour faire la fête, pour regarder des dessins animés, pour jouer aux jeux vidéo, je me dis non, je vous aime, hein, je suis très, très intéressé par tous ces sujets, mais il ne faut pas déconner. Non. Donc non. Allez, c'est pareil, il y a une traîne raclette là. Plop. J'ai rapporté une demi-meule de raclette au lait cru de l'alpage alpin au-dessus de chez mon père. Pardon les amateurs de raclette, mais là on est à un autre niveau, hein, du côté de Plop 1980. Je vais attendre d'être au moins 5 ou 6 car je la mets en demi-meule entière dans l'appareil raclette. Ça c'est de la raclette. Voilà, et pas de charcute. C'est génial. C'est génial. Ah, une pirade du côté de PLune. Ah, il y a un sondage qui a été lancé par les modos. Sam doit-il streamer les vœux de Macron? Encore né à l'encre. Jérôme, ça doit être bon ça. Ah, vous me faites rire, j'adore. Je vais jouer à Dredge. C'est où Dredge, Zizi Bazooka? Joli pseudo. Ma copine fait un spectacle de tissu aérien. C'est beau, ça. C'est beau, ça. C'est drôle. Alors, j'ai toujours sur les deux chats. Hein. J'ai le chat à l'instant T et le chat sur lequel je remonte. Je pense que j'ai 10 minutes de retard. Le sondage, il dit quoi? Non, non. Ouais, vous voulez pas que je stream les vœux de Macron. Merci. Oui, oui, effectivement, certains ont remarqué que en ce moment, je faisais pas la presse sur TikTok. Moi, j'aime bien tenter des choses, tester des choses. On a double streamé la revue de presse sur TikTok là, de septembre à mi-décembre, quoi. Et c'était ni bien ni mal. C'est-à-dire que il y avait du monde, il y avait des gens, mais globalement, l'interface pour le direct est quand même bien moins faite. Le fait d'avoir un truc en vertical comme ça, bon, on avait réussi à trouver une DA, une mise en page pour quand même voir ma grosse tête, voir les journaux et le chat, mais pour le coup, c'était pas très satisfaisant, je trouve, en termes de DA. En termes de chat, c'était pas inintéressant. On avait un deuxième chat qui était ni bon ni mauvais. Il y avait du monde. Hein. Il y avait 300-400 personnes en permanence. Donc je me dis qu'ils se rajoutaient au public de Twitch. Donc je me dis, tiens, tu touches un autre public. Mais ce qui m'embêtait, c'est que du coup, comme moi j'adore interagir avec le chat, c'est mon plaisir, sinon on n'est pas sur Twitch, on n'est pas en live. Le problème, c'est que quand je réagissais à des propos sur le chat TikTok, les amis de Twitch ne voyaient pas les messages dont je parlais. Et quand je réagissais sur des messages du chat de Twitch, bah, les amis de TikTok ne voyaient pas ce dont je parlais. Et donc, je trouvais que ça créait un porte-à-faux et que je n'étais plus finalement à 100% avec le chat, puisque j'étais sur deux chats, c'était un peu étrange. Voilà. Donc, voilà. Donc, naturellement, sans que j'en fasse une analyse très très poussée, il y a un matin, j'ai pas lancé, puis un deuxième, puis un troisième, je suis pas sûr de relancer, voilà. Sans compter que l'interaction, la modération est plus difficile sur TikTok, on n'a pas les mêmes outils, sans compter que dès que tu passes une bande-annonce d'un film, d'un jeu vidéo, TikTok aime pas ça, ouais, c'est un peu bizarre, quoi. Voilà. D'ailleurs, parce que beaucoup me demandent souvent si je peux double streamer en même temps sur YouTube. Ben, en fait, pour moi, c'est le même problème, c'est d'avoir deux chats différents et une communauté ne voyant pas les messages de l'autre, quoi. Voilà. Donc, Twitch, mais on le savait déjà, est la plateforme du live et du direct. C'est pour ça que j'y suis autant attaché d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup le direct. Je pense que TikTok l'est moins, et YouTube également. Longue vie à Twitch, J'espère que cette plateforme existera longtemps parce que elle n'est pas, elle est pour moi irremplaçable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'équivalent, quoi. Comme dit Plop, on pourrait croire que YouTube, Twitch, TikTok, Insta sont des plateformes de vidéo point, mais on sent que les usages sont bien différents, tu as raison. Chaque plateforme a sa philosophie, hein. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et comme je suis très très attaché à Twitch et que le fait de faire des lives en double sur TikTok, je trouvais abîmer un peu ma relation avec le chat Twitch, bah du coup, bah, je pense que je suis en train d'arrêter, quoi. Voilà. En revanche, la vraie bonne nouvelle, la vraie bonne surprise, c'est le podcast audio. C'est-à-dire que moi, ça fait des années que je me dis qu'il faut que j'aille sur le podcast audio. Voilà. Et puis bon, bah, par manque de temps, par manque d'accompagnement, ça n'a pas pu se faire. Il y a eu des velléités, des envies. Mais en fait, bon, ben, j'ai essayé à une époque de poster la revue de presse moi-même, avec mes petits moyens, en podcast audio. Je crois que je faisais ça sur Spotify, je crois. Mais c'était bon, ça demande du temps, en fait, beaucoup plus qu'on imagine. Et jusqu'au moment où j'ai été approché à la rentrée complètement par hasard, par des gens qui font ça, c'est-à-dire que qui sont en capacité techniquement, avec rigueur, tous les jours, à la même heure, de prendre ta revue de presse de Twitch et la mettre en podcast audio proprement sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer. Et alors quelque chose qui m'était demandé depuis longtemps. Donc c'est fait avec rigueur, c'est fait quotidiennement, il n'y a pas de raté, il n'y a pas de loupé, c'est propre. Et je ne m'attendais pas à ces audiences. Ça a été pour moi l'énorme surprise de vraiment de cette année, hein. C'est que je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'écoute. Et là, du coup, je suis en train de découvrir cet univers du podcast que je connais mal et que je trouve fascinant. Voilà. Il y a du montage sur les podcasts? Pas beaucoup, c'est à peine nettoyé, quoi. Alors j'essaye aussi, du coup, de faire de moins de blanc aussi. Qui sont sur Twitch, on voit ce que je suis en train de faire, mais du coup, j'essaie de penser aussi à ceux qui nous écoutent en podcast. Mais je suis très très étonné du nombre d'écoutes, quoi. Voilà. Là, on est sur du. Je sais plus, c'est énorme. C'est étonnant. Ouais. Duck Duck me dit un retour de l'hebdo Étienne pour 2026. Oui. Ah, regarde, j'avais pas vu le sondage. Merci les modos, vous êtes incroyables. Suivez-vous la revue de presse ailleurs que sur Twitch? Oui, YouTube 6%. Oui, en podcast 12%, c'est beaucoup. Replay Twitch 4%, toujours en live 79%. Alors oui, tu as raté ce stream il y a quelques jours, DuckDuck 2022, mais nous en avons parlé, c'est un projet. C'est un projet. En fait. Là aussi, je vous écoute, c'est-à-dire que vous êtes très nombreux à me réclamer régulièrement le retour de l'Hebdo Étienne, cette émission qu'on a fait en 2022-2023, si je ne dis pas de bêtises. Tous les vendredis soirs, avec quatre invités, où je mélangeais journalistes, créateurs de contenu, pour revenir sur l'actualité de la semaine, l'Hebdo Étienne. Bon, c'est une émission qui marchait, il y avait du monde, il y avait de l'ambiance, tout le monde disait beaucoup de bien. C'était mon émission qui était la plus consommée en replay, d'ailleurs, c'était assez étonnante. Mais qui me demandait un travail de fou en termes de programmation, trouver quatre invités différents chaque semaine, trouver les thèmes, bon, hyper sympa, mais travail énorme. Compliqué de trouver aussi un sponsor pour une émission qui parle d'actualité. Et donc je l'ai mise de côté. Je l'ai mise de côté, mais c'est l'un de mes envies de 2026, c'est-à-dire que je voudrais recréer l'émission, mais comme je vous l'ai expliqué récemment, pas avec quatre invités différents chaque semaine, mais plutôt avec une bande de chroniqueurs. Une équipe, des amis qui reviendraient régulièrement. Donc, on parle de 4 à 8 visages qui se succéderaient, des gens que j'aime bien, pour que je n'ai pas ce travail de programmation gigantesque de trouver 4 nouveaux invités chaque semaine. Quand tu es tout seul, c'est fou, quoi. Voilà. Donc, et du coup, chaque chroniqueur aurait pour responsabilité, mission de venir avec une actu qu'il a envie de développer, tu vois? Donc, je pense que ce serait une façon Parce que moi, je tiens au rythme hebdomadaire une façon intelligente de relancer l'hebdo Étienne, mais sans me mettre, me remettre cette charge de travail surréaliste, en fait. Voilà. Donc, je vais. L'idée, c'est qu'elle soit en place en septembre 2026. Et donc, me connaissant, ça veut dire que peut-être que je pourrais commencer à la faire en mai-juin. En mai-juin. Pour tester des trucs, quoi. Voilà. Donc, oui, ça va revenir, l'hebdo Étienne. Puis, tant pis si je trouve pas sponsor. Je la ferai, je la ferai. Je la ferai, quoi. C'est comme ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît à mon émission du dimanche soir sur jeux vidéo a plus vraiment de sponsors non plus ou de façon aléatoire quoi. Il y a plus j'ai eu la chance d'avoir Boulanger une marque assez cool qui m'a accompagné pendant deux pleines saisons sur Samplay, ce qui était surréaliste quand même pour faire cette émission dans de bonnes conditions. Bah il y a plus donc de temps en temps j'arrive à faire sponsoriser un Samplay, mais tant pis l'émission elle est cool donc je vais continuer à vous la proposer le dimanche soir. Quand il y aura un sponsor, tant mieux. Et puis quand il n'y aura pas de sponsor, tant pis quoi. L'hebdo Étienne en podcast, bien sûr. Ah bah du coup, en fait, comme je suis fasciné par le modèle du podcast audio, qui à mon avis correspond vraiment à ce que je fais en termes de création de contenu autour de l'information, bah, je me dis que... Maintenant, quand je songe à un nouveau concept, parce qu'il faut, je pense qu'il faut toujours être en mouvement et pas s'endormir sous ses lauriers, je me dis, ok, est-ce que ce live Twitch, il peut avoir un intérêt en podcast audio? Et pour le coup, l'hebdo Étienne en podcast audio, à mon avis, c'est super. Comme la revue de presse du samedi sur les bonnes nouvelles. Ça me plaît, non, c'est trop visuel, bien sûr. On est sur un jeu vidéo, tu vois. Il y a un peu de discussion, mais on va jouer sur 3 heures, on va jouer 2 heures, donc on peut, évidemment, ça, c'est pas podcastable. Et très bonne question de Salty Rasputin. As-tu prévu de nouvelles choses côté gaming pour 2026? Bah non. Bah poursuivre ça me plaît, quoi qu'il en coûte. Oh merde, la phrase. Et puis et chercher de nouvelles idées. Chercher de nouvelles idées. Ouais. Pourquoi ne pas faire comme Jean Massier via un crowdfunding? Non. Non, en fait, je trouve ça formidable que des communautés se mobilisent autour de leurs créateurs de contenu pour les accompagner et les aider. Mais moi, personnellement, je suis pas très à l'aise avec l'idée de... Attends, j'ai envie de faire un truc, donc je fais appel à votre générosité. Et puis, si vous êtes au rendez-vous de cet appel, eh bien, je créerai une émission. À tort ou à raison. Je préfère l'idée que ce soit des marques, des sponsors qui, en fait, mettent les sous sur ces émissions pour que bah, je n'en ai pas à demander à la commu, quoi. Pour que ça vous coûte rien. Je préfère cette idée, je suis plus à l'aise avec ça. Et nouveau local, c'est pour quand? Bah, c'est pas pour tout de suite, hein. Il faut le trouver, quoi. Mais ça, ce serait. Là, j'aimerais avoir un local, un super outil de travail, quoi. Ah, c'est un peu petit, c'est un peu le bordel, là. Plus compliqué pour Backseat, car c'est une émission politique et politisée. Oui. Bah oui, mettre un sponsor sur Backseat, c'est très compliqué. C'est pour ça que. Moi, c'est pas le modèle qui me gêne, parce qu'effectivement, pour Backseat, par exemple, l'appel à la générosité de la communauté, l'appel au crowdfunding, il est totalement cohérent, quoi. Comment tu mets une marque, un sponsor sur une émission qui parle 100% de politique, c'est quasi impossible. Jean, il n'a pas le choix, quoi. C'était le problème pour l'hebdo Étienne, d'ailleurs. Mais bon, tant pis, on la fera à fond perdu. L'idée, c'est que moi, je suis assez transparent là-dessus. Vous savez que moi, j'aime bien financer la chaîne par le sponsoring. Et l'idée, c'est que le sponsoring sur certaines émissions doit pouvoir me permettre aussi de vous proposer des émissions qui, elles, ne sont pas sponsorisées, ne sont pas soutenues financièrement par une marque, grâce à l'argent que j'aurais chopé sur les OP, quoi. Pour l'hebdo Étienne, par exemple, pour Ça me plaît. Tu vois, c'est un peu l'idée. Là, on peut trouver un équilibre assez intéressant. Noctali, tu régales, merci pour les 5 abonnements offerts à la commu. Voilà. J'aime bien cette idée que ce soit les marques qui permettent de faire ça, y compris de financer les émissions sur lesquelles elles ne sont pas finalement. Ça me paraît assez sain. Qu'on s'est fait avec transparence, tout ça. Bon, on va y aller. Waouh, 39 minutes d'intro. Hein, c'est passé vite. Coucou Samuel, je fais découvrir Twitch à ma mère qui te kiffe. François, 68 ans, elle t'embrasse. Candy Batch, un gros bisou à tous les deux. Toutes les deux. Candy, comme je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Voilà. Bisous Françoise. Prénom que j'aime beaucoup. Pourquoi ne pas faire sponsoriser la matinée Étienne et se servir de l'argent pour faire d'autres émissions? Bah, c'est un peu l'idée. La matinée Étienne, parfois, est sponsorisée. Hein, one shot. Voilà. C'est l'idée. Et puis de prendre cet argent pour fabriquer des émissions qui ne sont pas sponsorisées aussi. C'est un peu l'idée, ouais. Ouais. C'est ça. Bon, les amis, on part sur la revue de presse? Ça, là, tout est un peu passé, là. C'est cool, ça fait plaisir. Un peu. Merci, EB7 Game. On y go? Vous faites un petit sommaire? Merci, Côtelette. Il y a plein de gens qui font des bises à Françoise. Let's go? Ok? Allez, go. Moi, j'ai juste pas compris l'OP sur le centre logistique à Bordeaux. Mais bon, dans l'idée, je comprends ton pauvre. Petitching, en fait, c'était Cdiscount. Et Cdiscount était le sponsor de Time Out. Ça, c'est le grand jeu de culture pop que je fais, que j'ai dû faire 5 fois déjà. Qui est une grosse prod hein, que je fais avec Webedia. Donc, ça demande un vrai budget. Donc, ça, on ne le fait que quand on a le budget qui le permet. Donc on l'a fait avec la sécurité routière, on l'a fait avec la SNCF. Tu vois, c'est des gros budgets. Et Cdiscount nous a permis de produire la dernière. Donc on a fait un grand time out qui est en replay d'ailleurs sur YouTube, qui est sympa, avec plein d'invités cool. Et puis dans les livrables pour cette opération, il y avait le fait que j'aille au centre logistique Cdiscount près de Bordeaux. Tu vois. En fait, mais si je fais pas ce truc là, il y a pas l'émission. Alors l'émission elle est cool. Moi je suis super fier de time out. Comment ça fonctionne, quoi. Allez, go. C'est parti. Bande de beaux gosses. On a pas mal de choses ce matin, des choses intéressantes. Ok. Et je vous mets le sommaire. Vous l'avez. Ok, super, c'est parti. Et... ici. Hop, suivant. Ok. Bonjour à tous. Bienvenue dans la matinée Étienne. C'est la dernière matinée Étienne de l'année 2025. J'essaye d'être là demain matin aussi pour la première de l'année 2026. 5 ans qu'on est là, tous les matins, surtout depuis le mois de juin dernier où je me suis engagé à ce que soit. À ce que ce soit tous les matins, voilà. Et cet engagement, je l'ai tenu. Voilà. Donc, on est là tous les matins, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, en direct, sur Twitch, de 9h à midi ou 10h à 13h. Ah, ça, c'est la une d'hier, c'est pas grave. Attendez, hop, il suffit de se mettre là, voilà. Et en replay sur Twitch, pour les abonnés, et en replay sur YouTube, à J+1, et en replay... le même jour, à partir de 15-16h, en podcast audio. Et merci d'être aussi nombreux à nous écouter en podcast audio, que ce soit sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast. Ça me fait très, très plaisir. Voilà. On commence comme tous les matins. Hein, on est mercredi aujourd'hui. On est le mercredi 31 décembre 2025. On commence par un sommaire. Ceux qui ne peuvent pas rester 2 ou 3 heures avec moi, eh bien, vous avez l'essentiel de l'actualité. De quoi on va parler ce matin? Grâce au Figaro, des mots. vous le voyez, qui ont fait 2025. Les mots qui ont marqué l'année, parfois qui sont des nouveaux mots, ou pas. Conclave, bouger, xénogreffe, ces mots qui ont fait 2025, l'élection d'un nouveau pape, une succession de procès retentissants, l'irruption massive de l'IA, tout un vocabulaire a marqué les événements de l'année écoulée. Oui, bouger, ça m'a surpris aussi. Parce que bouger, c'est pas très nouveau. Mais c'est quand les gens disent, regarde, il faut un bouger. Je ne connaissais pas ça. Je ne vois pas, comment on dit, Rajbait. Bah si, il y est, il y est. Il y est, ils l'ont mis. Ils l'ont mis. Ouais, un bouger, exactement. Il y a Rajbait, il y a romantésie, il y a entrisme, il y a xénogreffe, il y a parasocial, il y a conclave, il y a performatif, il y a vibe coding. Voilà. Donc on va se pencher là-dessus. Évidemment, c'est très subjectif, c'est le choix du Figaro sur les mots qui auraient marqué 2025. On verra ça ensemble tout à l'heure. Voilà. Il y a masculinisme aussi. Ouais. Ouais, masculinisme, tu as raison. Je l'ai vu, où est-ce qu'il est ? Ouais, exactement. Donc, on verra ça avec le Figaro. Depuis quelques jours, je vois beaucoup de petits articles sur les succès d'audience de CNews, hein, qui est l'une des quatre chaînes d'infos en France. Vous avez France Info, BFM, LCI, CNews. Par ordre d'ancienneté, vous avez LCI, qui était la première à être créée sur le modèle des chaînes d'infos américaines type CNN. Je me rappelle de ça quand j'étais jeune. Journaliste. Donc LCI, suivi par iTélé, chaîne d'info. Donc LCI, c'était la chaîne d'info du groupe TF1. iTélé, chaîne d'info du groupe Canal+, devenu CNews, qui a beaucoup changé. Ensuite, il y a eu BFM, qui était censément, d'après son cahier des charges du CSA à l'époque, une chaîne actualité économique. Et puis qui est devenue une chaîne généraliste tout de suite, en fait, BFM. Et la dernière, née France Info Télé. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, la première chaîne d'info, c'est CNews, en termes d'audience. Donc, il y a plusieurs articles là-dessus. J'en ai trouvé un dans La Croix, qui se penche sur ce phénomène. Pourquoi CNews est devenue la première chaîne d'info en France en termes d'audience, et est-ce que, comme se pose la Croix ce matin, est-ce que la polarisation des médias est inéluctable, puisque certains estiment que CNews est une chaîne d'infos qui donne davantage la parole à certaines idées qu'à d'autres. Suivez mon regard. Par là. Enfin, ou par là, ça dépend dans quel sens vous regardez, mais voilà, quoi. Donc on en parlera. Un troisième thème que j'ai intitulé « L'humeur des Français ». L'humeur des Français, c'est... parce que c'est très difficile à analyser, ça. Qu'est-ce que pensent les Français aujourd'hui ? Quelle est l'opinion des Français aujourd'hui ? Hein, j'ai préféré utiliser un mot un peu plus flou, « l'humeur des Français ». Pourquoi ? Parce que les Échos donnent la parole via une interview à un spécialiste de l'opinion, mais qui est quelqu'un que je connais un peu et qui est quelqu'un... que je trouve assez rigoureux, en plus d'être sympathique, s'appelle Bernard Sananès, président d'ELAB, qui est un institut de sondage. Je l'ai croisé souvent en plateau dans mon ancienne vie, et le gars, en plus d'être sympathique, je le trouve plutôt intéressant en général dans ses analyses. Voilà, et donc là, on a une longue interview sur les opinions, la sensibilité, les humeurs politiques des Français aujourd'hui, notamment sur le président Macron, sur la prochaine présidentielle, sur le travail aujourd'hui à l'Assemblée, sur la division des partis, etc. C'est pas inintéressant, on fera le point avec les Échos. On parlera un petit peu de l'international ce matin avec cet article dans les Échos toujours sur cette révolte qui se lève en Iran. Hein, des foules protestent depuis 2 jours en Iran contre la vie chère, contre l'inflation, appelant même à la chute du régime, dans un régime en général qui voit souvent d'un très mauvais œil les mouvements populaires qui sont réprimés souvent dans la violence. Voilà. Là, il y a un article assez intéressant. Si on voit les choses bouger fortement en Iran dans les prochains jours, je tenais à vous lire cet article pour vous donner un petit peu quelques clés de lecture sur ce mouvement populaire. On restera à l'étranger avec la Chine. Alors que j'ai intitulé très sobrement ce titre « La Chine et le préservatif », le truc est surréaliste. C'est-à-dire que vous me croisez dans la rue, au café, et je vous dis « Les gars, pour faire repartir les naissances à la hausse en Chine, parce que les Chinois ne font plus d'enfants, ils ont décidé d'augmenter le prix
des préservatifs, vous allez me dire, c'est une blague. C'est une blague. Aucun pays au monde pourrait décider d'augmenter le prix des présos pour que les gens utilisent moins de présos et donc fassent plus d'enfants. Si. Si. Et vous allez me dire, mais attends, la Chine qui a imposé pendant des décennies la politique de l'enfant unique à toute une population en disant il faut pas faire d'enfants. Cette même Chine décide aujourd'hui de dire à ces mêmes Chinois que désormais il faut en faire. Oui, c'est eux. Voilà. Et donc là, ils ont décidé d'augmenter le prix des préservatifs pour relancer la natalité. Voilà. Les IST, bonjour, dit Sugar, bien sûr. Vous imaginez bien. Ce faisant, les conséquences sur les MST et les IST. Surréaliste. Voilà. Donc ça, on va lire ce petit papier, quoi. Tu ne veux pas croire à l'info, et pourtant c'est une info sérieuse, quoi. Voilà, on se penchera dessus. Oh, alors j'étais surpris par ça. Les influenceurs, bon là les échos parlent des influenceurs, on parle des créateurs de contenu, vous les appelez comme vous voulez, les youtubeurs, les streamers, eh bien certains ont sorti des livres et ça se vend, mais ça se vend, quoi. Les chiffres. De vente en librairie des ouvrages, ici, les échos des influenceurs sont assez étonnants. Alors, on parle du manga d'Inoxtag, mais les ventes du manga d'Inoxtag, mais c'est une dinguerie. Les chiffres, je les découvre ce matin dans les échos, sont fous. Sont fous. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a Léna Situation aussi, qui vend très bien ses livres. Voilà. Et puis, ça marche pas toujours. Et les échos prennent le contre-exemple de. Fais du sport là. Thibaut Inchep, qui a sorti un livre là, dont il a beaucoup parlé, dont il a beaucoup fait la promotion, et alors que personne ne lit, quoi. Voilà. Mais personne, quoi. Ça s'est vraiment pas vendu du tout. Donc on se penchera sur ces chiffres. Et puis. Hier, quelqu'un m'a dit dans le chat, ah mais Sam, est-ce que tu pourrais parler de ce film qui va sortir là, qui sort aujourd'hui au cinéma? Parce qu'il est extraordinaire et tu as raison. Depuis lundi, je vois plein 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 d'articles extrêmement positifs sur ce film qui s'appelle Qui brille au combat. Voilà. C'est le premier long métrage d'une comédienne. Premier long métrage en tant que réalisatrice de Joséphine Japy qui raconte la maladie génétique dont souffre sa cadette. C'est un très beau film. Voilà. Sur sa sœur. Avec notamment dans le rôle de la maman, Mélanie Laurent, que vous reconnaissez à gauche ici. Et donc, c'est la réalisatrice qui a réalisé ce film, qui en fait se penche sur son histoire personnelle. Celle de la maladie génétique rare dont souffre sa sœur cadette, qui s'appelle Bertille, voilà, qui souffre du syndrome de Phelan-McDermid, qui est une forme d'autisme sérieux. Et il paraît que le film est incroyable, donc on ira voir cet article et on ira voir la bande-annonce. Voilà les amis pour le sommaire. Pas mal ou pas mal? Hein? C'est bien, non? Pas mal de choses, hein? Ouais, je l'ai vu, The Callfire, l'article aussi sur les paris sportifs. Ah, je vous l'ai mis de côté. Il est là. Tu vois, alors le problème, c'est que moi, je vous mets plein. Le matin, je lis, ou le soir, je lis tous les journaux. Et puis, et tous les articles. Mais le problème, c'est que tous les articles qui me semblent intéressants, je vous les lis pas parce que par manque de temps, je fais des choix qui sont très subjectifs. Le Monde. Alors, c'est précisément sa cible. C'est un article précisément qui dénonce le fait que les paris de sites sportifs visent les jeunes hommes via des promotions ciblées dans les quartiers populaires, dans les banlieues, voilà, pour faire leur beurre, quoi. Voilà. Et donc c'est un article passionnant, mais voilà, j'ai hésité, mais j'aurais pu vous en parler effectivement. Ouais. Mais il est à lire dans Le Monde aujourd'hui. Ça, c'est très intéressant. À quand un live 24 heures journaux? Ce serait drôle, ça. Mais tu as raison, c'est un très bon article. Dans Le Monde, page 11, aujourd'hui. quoi des entreprises capitalistes utiliseraient la misère humaine pour se faire de l'argent ? Dit Lenko. Bah, c'est exactement ça. L'article est assez passionnant. Mais le problème, c'est que bah, le matin, je fais un choix entre plein d'articles. Et celui-ci, je l'ai été dans ma shortlist. Voilà. Mais l'article est vraiment passionnant. Voilà. Bon, je me lance un petit expresso. Et puis on y va, ok ? D'accord ? Voilà, j'en ai pour 30 secondes. Ça arrive dans 30 secondes. Juste, ami de podcast, je bougez pas.
Je suis là.
On ira le chercher après le premier article. Petit rappel amical aux gens d'X5Kill que les jeux d'argent ne sont que des investissements à taux strictement très négatifs. Exactement. On parlait tout à l'heure de sponsoring d'OP. Moi, parmi les... Évidemment, je choisis. J'ai évidemment été approché, comme tout le monde, par des marques de paris sportifs, pour sponsoriser tel ou tel contenu sur ma chaîne. Il va de soi que j'ai refusé toutes ces collaborations, quoi. Après le moment où je ne cautionne pas, moi, ce type d'entreprise, je ne vous les propose pas, quoi. Voilà. Bien sûr. C'est mignon, il y a Kernel qui dit « Moi, je pensais que les revues de presse de Samuel ne parlaient que de poétique franco-française déprimante, mais en fait, c'est varié et assez intéressant. » On essaye. Oui, non, pas de casino sur cette chaîne, pas de paris sportif, rien. Ouais. Allez, let's go. Premier sujet, les mots qui ont marqué, qui ont fait, dit Le Figaro 2025. Voilà. Bon, évidemment, c'est le choix du Figaro, c'est un choix subjectif, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Conclave, bouger, xénogreffe, ces mots qui ont fait 2025, l'élection d'un nouveau pape, une succession de procès retentissants, l'irruption massive de l'IA, tout un vocabulaire a marqué les événements de l'année écoulée. Les mots d'une époque révèlent ces tensions sociales ou politiques, c'est vrai, ces avancées technologiques, ces dilemmes moraux, ces angoisses collectives comme ces réjouissances populaires. C'est intéressant effectivement de se pencher sur les mots d'une époque. MOTS. Les mots MOTS qui disent parfois beaucoup des mots MAUX, vous l'avez compris. Cela ne doit donc rien au hasard si l'année 2025 a été marquée par des mots sociétaux comme masculinisme, parasocial ou performatif. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais j'ai pas tellement... performatif. Ouais, pas trop celui-là, moi. On va voir ce que c'est. Ainsi que par ceux du monde du numérique avec les phénomènes de rage bait. Alors là, je suis content parce que je n'ai jamais osé demander à la communauté, mais c'est quoi en fait le rage bait que je vois très souvent dans le chat? Bon, peut-être que là, je vais enfin comprendre. Et de vibe coding, je n'ai aucune idée de ce qu'est le vibe coding. Ces dernières locutions mettent en lumière quoi? La solide implantation des anglicismes dans le paysage français, largement relayé par les réseaux sociaux. En outre, ces expressions importées montrent à quel point la rapidité des échanges numériques influence la langue. C'est hyper intéressant. Hein. Aucun équivalent français n'a pour l'heure été proposé par la commission d'enrichissement de la langue française. J'apprends ce matin qu'il y a une commission d'enrichissement de la langue française. Voilà. Parmi les expressions de cette année, peu décrivent de joviales réalités à l'image de ce qu'avaient pu être les Jeux Olympiques. Seule la figurine en peluche colorée, la bubu, je ne connais pas, popularisée par les réseaux sociaux, fera sourire. Ok. Le rage bait, me dit Cedo, Z, c'est le fait de triguer, énerver les gens avec des hot takes ou des trucs douloureusement, obviously énervants. Ok. On dit la boubou. C'est les peluches que tu as vues sur les sacs de Nico et Bailan. Ah, ok. Rien compris non plus, ça. On dit pas la bubu, on dit la boubou. D'accord. Ok. Vous voyez, je comprends rien. Alors, on va choisir. Alors, bah, tiens, bah, la boubou, tiens, on va commencer par ça. C'est moche, mais c'est moche ces trucs, me dit Harmony. Incompréhensible le succès de ces babioles. Ok. Ne pas confondre avec le boubou. Hein. Le viewer fidèle à qui on doit ce très beau sommaire interactif. C'est moche et c'est cher ? Incroyable. La boubou. Tout le monde sait qu'on dit la boubou. J'ai entendu des paumés là récemment dire la bubu, la bubu. Non, 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 les gars. Évidemment, la boubou. Hein, tout le monde sait ça. Hein. Tu tiens le bon boubou. Magnifique. Bravo. Vous avez sûrement déjà vu cette affreuse peluche rose ou marron au sourire monstrueux suspendue à un sac ou un trousseau de clés. Bon, bah, moi, je pensais que non et vous me dites que oui. Bon. Elle vient de Chine et se nomme la bubu, à prononcer la boubou. Bien qu'existant depuis 10 ans, la petite créature a connu un succès mondial grâce à des chanteuses qui l'ont arborée et au relais de TikTok. Ok. Son phénomène repose sur une idée aussi simple que mercantile. Chaque figurine s'achète dans une boîte sans que son acquéreur puisse savoir à quoi elle ressemble avant son achat. Tu sais pas ce que t'achètes ? Tu sais pas ce que t'achètes ? Ils sont forts ! Ok. Une sorte de loto mondial. De quoi donner envie au client d'en racheter encore et encore le temps de tomber sur le modèle rare et accessoirement sur celui qui lui plaît. Ok. Évidemment, le phénomène a causé quelques troubles. Au Royaume-Uni, par exemple, les fans en sont venus aux mains, provoquant la suspension des ventes au magasin par la marque Pop Mart. En outre, des contrefaçons ont été commercialisées, non sans être mal conçues ou contaminées au phtalate, tant qu'à faire. Hein ? Et provoquer un danger pour la santé des consommateurs. De quoi donner envie de serrer un bon vieil ours en peluche. C'est un peu du caca, non ? La bubu, là. La boubou. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça ? Ok, c'est des petits bonshommes, quoi. Ces deux aides disent, c'est littéralement le principe des cartes Pokémon avec des figurines. Ben, ouais, en vrai. Tout le monde trouve ça horrible, mais comme tout le monde en a, tout le monde achète pour faire genre, plus gambling, effet turbo-toxique, me dit Horizon. Ouais, c'est pas... Ouais. Ok. Bon, je suis pas super hypé, hein. Ne m'achetez pas de... Comment ça s'appelle, là hein ? De la boubou, hein. Alors, Ascar me dit, c'est des poupées sataniques. Regarde les prix. C'est... Combien que ça coûte ? France, oui. Je suis d'accord, ouais, ok. Quoi ? C'est une blague ? 72 balles ? Non ! C'est une blague ? Attends. C'est une série limitée ou... $90 ? 36 balles ? 29 balles ? 24 balles ? Après, ils font des petits porte-clés aussi, la moins chère. Oh, nom de Dieu ! Ah, c'est parce que c'est une grande taille. Ah, l'entrée de gamme, c'est 20 euros. Eh ben, c'est trop cher. Ok, d'accord. Grâce à vous, je sais maintenant ce que c'est un la boubou. Ok. Bon, très bien. Qu'est-ce que disait le Figaro ? Attends. Seule la figurine en peluche colorée la boubou popularisée par les réseaux sociaux fera sourire. Mais non ! Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais ça ne nous fait pas sourire du tout. qui a des laboubous ici et qui aime ça ? Levez la main. On ne jugera pas, hein, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Qui a du laboubou ? Hein ? Qui ? Je ne connaissais pas, ça ne m'intéresse pas. J'ai refusé à ma fille adore, elle a 6 ans, elle en a plein. Oh, je suis un homme, mon pauvre. La moitié des élèves de ma classe. Ah, c'est vraiment les enfants, alors qui ont ça, d'accord. J'ai vu des queues immenses, me dit Framboise. Devant des boutiques pour des laboubous, d'accord. D'accord. Oui, il faut pas juger. Eric dit, il faut pas juger. On est juste pas le public. Il y en a qui achètent des laboubous, il y en a qui achètent des skins Valorant. Qui achète des skins Valorant ici ? Ah, c'est les enfants qui sont ciblés, d'accord. Ils sont forts. Ok. Ok. Bon, bah maintenant je sais ce que c'est. Alors, c'est pas du tout les enfants, dit Kioma, c'est un accessoire de mode que les 20-30 ans possèdent. Ayez Fanovic, je n'ai pas d'accord, il dit la cible, c'est plutôt les collégiens en fait. Hein. Ok. J'ai 18 ans, je connais beaucoup de copines qui en ont, me dit Maïssa. Ok. Ok. Bon, je suis pas le public, mais après tout, pourquoi pas. Ok, très bien. Alors, bouger. Donc, en quoi bouger est un nouveau mot? Eh bien, c'est la façon dont bouger est utilisé qui est nouvelle. Très présent dans la sphère politique, ou du moins dans sa communication, ce terme est employé comme un synonyme d'évolution. Il a notamment été entendu lors du débat sur la suppression de 2 jours fériés en France. Il faut un bouger, avait alors estimé la présidente de l'Assemblée. Bien que ce mot ait un sens au participe passé, il est d'une totale incongruité à l'oreille employée comme nom, un bouger. C'est pas il a bougé, c'est il faut un bouger. Mais qui dit ça, dit Sugar, la présidente de l'Assemblée nationale. S'imagerait-on dire, oui, c'est ça. Il y a un bouger dans ma relation. Il y a un bouger dans mon contrat de travail. Il faut un bouger dans ce frigo. Heureusement pour nous, ce jargon politicien n'a pas encore dépassé sa sphère. Donc voilà, Sugar me dit, mais qui dit ça? Manifestement, dans les sphères politiques, certains disent, il faut un bouger. Ok. Voilà, pour l'instant, on est dans le monde politique. Eh bien, prions pour que ça ne vienne pas jusqu'à nous. Ou alors, ou restons sur les classiques. Comme le propose Lucky 13, je vais acheter la viande chez le bouger. Masculinisme. Ah! Ah! Alors, on va se régaler là. Waouh, masculinisme. À l'origine, selon le dictionnaire Robert, le mot apparu en 1931, c'est vieux, hein, désignait simplement une attitude, un caractère masculin. En pathologie, tu m'étonnes d'une pathologie, il pouvait qualifier l'état d'un individu qui, étant de sexe masculin, présente des caractères sexuels secondaires masculins. Depuis quelques années, donc c'est la définition moderne de masculiniste, il est devenu connoté un moyen de parler d'un ensemble de revendications cherchant à promouvoir les droits des hommes et leurs intérêts dans la société. Selon le site du Thésaurus, le terme a vu son nombre de consultations bondir de 800% en 2025, porté par des influenceurs tels Alex Hitchens et des figures médiatiques sur les réseaux sociaux. Ce mot a pris un virage, incarnant désormais l'emblème d'un mouvement prônant le retour des femmes dans la cuisine. La violence physique et psychique à l'égard du sexe faible, etc., en réaction au mouvement féministe. Voilà. Pardon, je me mouche. Qu'il est affreux ce mot. Qu'il est laid. Mais, à en croire certains réseaux sociaux, enfin les moins modérés, suivez mon regard. Une des valeurs, je mets des énormes guillemets, qui semblent rencontrer de plus en plus de succès auprès d'un public masculin plutôt jeune d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous lis, je vous lis, je vous lis. Je suis étonné qu'avec il n'y ait pas body count dans les mots, c'est pas faux. Oui, quelqu'un me disait, mais je comprends pas, c'est quoi la différence? Pourquoi le masculinisme a une connotation négative et le féminisme est considéré comme un mouvement positif? Bah, Lauberé nous l'explique, le féminisme veut l'égalité des droits pour les femmes, le masculinisme ne veut pas l'égalité des droits. Plus la connotation de violence. Donc c'est la réponse est assez simple finalement. Autre mot. Alors celui-ci, je ne le connais pas, mais je le trouve très très laid. Performatif. Peut-être qu'il est très beau, je ne sais pas, hein. Là, j'ai jugé avant de lire. Peut-être que je vais changer d'avis dans 30 secondes, mais là, comme j'ai un a priori assez négatif sur performatif. L'été 2025 a vu émerger une autre forme de masculinité, désormais, incarnée par les performative males. Comprenez les hommes, on dit males, male, oui, c'est ça. Comprenez hommes performatifs. Ah, ce serait lié au masculinisme? Ok. Décrit sur les réseaux sociaux, ces hommes s'affichent comme féministes et déconstruits, mais le plus souvent dans l'objectif de séduire le sexe opposé. Ainsi, disent-ils, et de manière souvent bien clichée, soutenir la cause féministe, lire Mona Chollet ou s'intéresser à la psychologie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Leur volonté de correspondre aux attentes de la gente féminine est perçue comme fausse et hypocrite, tandis que leur militantisme lui apparaît comme superficiel et purement ostentatoire. Nouvel anglicisme, c'est quoi ça? Ok, alors Marceau me donne la définition. Performatif, c'est les mecs qui veulent se donner l'air féministe, mais qui n'ont jamais compris les vrais enjeux derrière. Certains arrivent d'ailleurs à se faire comme validés en féministe, mais quand tu creuses, tu vois qu'ils n'ont rien saisi et qu'ils ont pour ça l'attention des femmes. Le terme performatif renvoie à l'idée de performance et n'a aucun rapport avec cette définition française. Ouais, d'accord. Ok. Bon. Alors là, mot qui a marqué 2025. Levons la main ceux qui viennent de découvrir le mot. Moi je ne le connaissais pas, celui-là. C'est tiré par les cheveux, dit Fefego. Alors ici, on tire pas sur les cheveux ici parce que c'est une denrée précieuse, c'est une denrée rare. Donc on économise les cheveux, mais oui, je suis d'accord avec toi. Bon, je ne connaissais pas ce mot. Bon. Vibe coding. Vibe coding. Alors ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. L'ascension toujours plus forte de l'intelligence artificielle a permis de développer de nouvelles réalités à nommer, notamment incarnées par le vibe coding. Élu mot de l'année par le dictionnaire britannique Collins. Cette expression décrit la manière de créer du code informatique grâce au langage naturel par des non-initiés. La pratique ouvre le codage et la programmation jusque-là réservée aux experts à des personnes lambda, marquant toutes les professions associées. C'est quand tu codes sans forcément. Ok. Cette locution capture quelque chose de fondamental sur l'évolution de notre relation avec la tech, explique le Collins. Il s'agit de dire à une machine ce qu'on veut plutôt que de devoir coder tout soi-même laborieusement. Bah, quand on fait un prompt, c'est ça? Defecator me dit c'est quand tu codes avec ChatGPT. C'est ça? Rêveur paresseux, quand tu codes avec des outils IA, tu promptes et ça code. C'est ça le vibe coding. C'est coder sans savoir coder. Tu captes la vibe? Ok. C'est quand tu codes uniquement avec des IA. Tu fais un prompt pour générer un programme, d'accord. 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 Bon, les IA, comment on appelle ça, on dialogue là, comme ChatGPT, comment on dit les IA. Ah, comment s'appellent les IA, tu sais, où tu échanges avec une IA là, les IA génératives. Générative? Comme ça qu'on dit? Générative? C'est ça. Je vais devoir m'y mettre. mon épouse qui est beaucoup plus en avance que moi là-dessus, hier, elle était en Franche-Comté, j'étais à Paris, un problème sur le chauffage à la maison, il y a un radiateur qui tombe en panne, bref, il est piloté par une appli, je sais pas quoi, le machin, tout, et l'appli me dit, ce radiateur, il peut plus marcher, code 255, il faut appeler le service après-vente. Ok, j'appelle le service après-vente, parce que je suis un papa responsable, et je me dis qu'un radiateur en panne, c'est pas une bonne idée, vu les températures. Okay. J'appelle le service après-vente, très sympa, hyper réactif, il dit, je suis désolé, mais ce code panne n'existe pas chez nous. Bah, je dis, si, c'est marqué sur l'appli. Elle me dit, ah, bah attendez, je reviens vers vous. Après plusieurs échanges, elle me dit, bah écoutez, on voit pas trop... J'en parle à mon épouse, voilà. Et puis elle utilise pas mal ChatGPT, tout ça, voilà. Et elle m'envoie une capture d'écran, me disant ce qu'il faut faire. 10 minutes plus tard, 10 minutes plus tard, c'était réparé. J'ai appliqué à la lettre la consigne d'Hélène, issue de sa recherche sur ChatGPT. Là où le service après-vente, très sympa d'ailleurs, n'avait pas trouvé la solution. Incroyable. Incroyable. C'est fou quand même. Et ça a marché. De folie. Voilà. Bon, moi, je n'utilise pas, moi. Samuel, journaliste, streamer et réparateur chauffagiste. Exactement. Donc on a fait la boubou, il paraît que c'est super les petites peluches là, Vibe Cody, qu'est-ce qu'on a de marrant, Parasocial, tiens, restons, Parasocial, décrit comme mot de l'année par le Cambridge Dictionary, Parasocial caractérise ses relations à sens unique, avec un lien que quelqu'un ressent entre lui-même et une personne célèbre qu'il ne connaît pas. C'est ça, parasocial. Ok. Un personnage de livre, film, série télévisée, une IA, un créateur de contenu. Lien parasocial. Ah. Si vous sentez proche de Madonna, de Mbappé, sans leur avoir jamais adressé la parole, ce mot ne pourra plus vous être étranger. À l'ère du numérique où l'isolement social est roi, cette montée du parasocial décrit paradoxalement un besoin d'intimité bien qu'unilatéral et stimulé. Alors, unilatéral et stimulé, ça me faisait penser à autre chose, mais c'est pas ça. D'accord. Ça, c'est intéressant. On n'est pas vraiment amis, Samuel ? Mais si, bien sûr, you're far away. Ok. C'est vous qui m'avez appris ce mot d'ailleurs, parasocial, pour caractériser notamment la relation entre les viewers et les streamers. Hein, c'est ça ? Sugar me dit, viewer, streamer, c'est du parasocial. Ok. Quoi ? Attendez. Si je vous invite là maintenant tout de suite, cet après-midi, à venir prendre un café, tous ensemble, on n'est plus dans le parasocial là. On est d'accord ? Oh, bon, un café ou un vin chaud, hein. On est d'accord. Ok, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore ? Romantésie. Dans un registre plus léger, romantésie a été l'un des grands mots de l'année littéraire. Contraction de romance et de fantaisie. Ce genre hybride popularisé par les réseaux sociaux et les plateformes comme TikTok et Insta a dominé les ventes en librairie en 2025. Vous êtes plusieurs à me dire « on adore, je ne lis que ça, ok ». Le genre se fonde principalement sur des histoires d'amour passionnées. Pétri de créatures féeriques, telles que des elfes ou des dragons, au sein de royaumes imaginaires. Très bien. La romantésie séduit un public jeune, majoritairement féminin, et bouscule les hiérarchies traditionnelles du monde littéraire en développant tout un nouveau pan de culture. Merci Kitty Ney. Ok. Le problème, c'est que si tu nous invites tous à boire un café chez toi, c'est que c'est avec Hélène que ta relation va devenir parasociale. Ok, j'ai compris. Ok. Donc c'est bien ça ou pas? Tu peux refaire le dragon s'il te plaît? Bien sûr. Attention avec la romantaisie et la dark romance qui parfois, Champichon a raison, j'ai lu des articles là-dessus, via son imagerie et jolie couverture attire des ados, hein, qui n'ont carrément pas l'âge de lire ça. Parents, lisez bien les avertissements au début des bouquins. Parfois c'est un petit peu... c'est un petit peu... hein? J'étais surprise de voir mon cousin 40 ans rugbyman trop fan de ce type de lecture comme quoi. Bah oui. On lit ce qu'on veut. Hein. Ma nièce de 12 ans adore ça pour Noël et voulait des bouquins, comment dire, un peu violents. Ah, c'est cru et violent, me dit Alexis. Olé, olé, dit Lucky. Ah oui, parfois c'est un petit peu... Hein? Coquinou, coquinou? Oui, merci Alexandra pour Evelyne Leclerc, merci beaucoup. C'est cru, c'est cru, c'est cru? Ok. Oui, 12 ans, c'est un peu jeune, me dit Yelny, d'accord. Ma fille m'a demandé captive, sûrement un des pires, heureusement que j'ai vérifié. Ok. Ok. J'ai plusieurs élèves qui lisent de la dark romance en pensant que c'est de la bonne littérature, elles ont 14 ans. D'accord. Ok. Mais c'est pas pareil, dark romance et romantaisie, hein. Oui, d'accord. Romantaisie, ça a l'air plus soft. L'enclencheur, on ne touche pas à Alexandra, elle dit ce qu'elle veut. Hein? C'est parce que tu connais pas la chaîne. Hein, c'est ça. Romantaisie, ça a l'air assez soft quand même. Les lecteurs, les lectrices de Romantaisie. Oui? Vous validez? C'est plus soft? C'est pas la même chose. Il y a différents degrés. D'accord, ok. Ok. Il y a Ballon d'Or, il y a... Qu'est-ce que c'est que Xénogreffe? Xénogreffe, dans les mots 2025. Appartenant au vocabulaire médical, le mot xénogreffe, c'est pas un truc dans Alien, ça? C'est invité dans le débat public pour qualifier une prouesse technique en transplantation, rien à voir. Après des greffes de reins et de cœur de porc à partir de 2021, puis de foie et de poumon en 2025, les premiers essais cliniques ont été autorisés en février dernier aux États-Unis. Ces transplantations d'organes d'animaux génétiquement modifiés. Ah oui, c'est xénomorphe dans Alien, voilà. Je savais bien qu'il y avait un truc. Présentées comme des avancées médicales majeures face à la pénurie de greffons, ont suscité beaucoup d'espoir dans le milieu médical. Transplantation d'organes d'animaux génétiquement modifiés. Ok, vous connaissiez? Ah oui, Xéno. Xéno, étranger, défécateur, tu as raison. Xéno, Xéna, xénophobe. Comme certains partis. Ouf, Samuel! Ça y est, c'est parti. L'homme ours-porc va devenir réel. Ah, il y a Xéna. Xéna la guerrière, bien sûr. Oh, Xéna la guerrière, bien sûr. Ok, d'accord. Bon. Intéressant. Ah, Ragebait. Enfin! Le 31 décembre 2025, Samuel Etienne va comprendre ce que c'est le Ragebait. Souvent dans le chat, je vois Ragebait et je fais ah ouais, je comprends rien en fait. Ok. Ragebait. C'est le terme choisi par le dictionnaire anglais Oxford comme mot de l'année 2025, carrément. Composé des termes rage et bait, appât. Ah, c'est Ragebait alors. Ok. Conçus pour susciter la colère ou l'indignation par leur caractère frustrant, provocateur ou offensant. Ah bah c'est Twitter ça. C'est X. Généralement publié dans le but d'augmenter le trafic. Ah bah ouais. C'est l'autre, c'est le petit nom du réseau social X. Généralement publié dans le but d'augmenter le trafic ou l'engagement vers une page web ou un compte de réseau social particulier. Ah bah oui. D'accord. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est le l'autre mot pour un tweet, quoi. C'est un tweet, en fait. C'est le mot moderne. Ok. Rajbait l'a notamment emporté sur l'expression aura farming, le fait de cultiver une image cool et charismatique qui s'est surtout répandue sur les réseaux sociaux. Il supplante le mot de l'année 2024, brain rot, littéralement pourrissement cérébral, qui désigne l'abrutissement numérique engendré par une consultation intensive de contenu de mauvaise qualité sur les réseaux sociaux. Exemple, TikTok. Le choix de Rajbait illustre la dynamique des réseaux sociaux qui se dirigent vers des contenus chargés émotionnellement, dans le seul intérêt de faire fructifier le porte-monnaie de son internaute. Faisons-nous face à un phénomène nouveau ou a-t-on simplement posé un anglicisme sur une mécanique existant déjà depuis fort longtemps? La question demeure.
Ok, d'accord.
Ok. Beaucoup se cachent derrière le rage bait pour justifier un commentaire haineux qui serait en fait juste là pour faire réagir.
Ok.
Tac. De la cochonnerie, quoi. On disait putaclic sur YouTube il y a 10 ans. C'est pile poil ce qu'on appelait avant le troll.
Ok.
Vous n'avez pas d'humour et souvent la réponse à un rage bait.
D'accord.
D'accord, très bien. C'est un peu plus clair pour moi, d'accord. Voilà, puis il y a d'autres mots, vous irez les lire. Un conclave, stabilité, dermatose nodulaire, autant de mots dont on a beaucoup parlé dans l'actualité, nous ici. Hein. Souveraineté, ballon d'or, entrisme, douane, protoxyde d'azote. Voilà. Si vous êtes souvent sur cette revue de presse, vous avez déjà entendu ces mots dans cette revue de presse. Allez, le petit café est coulé, on enchaîne avec le deuxième sujet. Il n'y a pas réarmement démographique, il y aurait pu avoir. Ouais, bah Ballon d'Or, c'est juste pour rappeler que c'est Ousmane Dembélé qui l'a eu, c'est tout. Ouais, je vais le chercher. Je vous mets le sujet suivant, on va parler de CNews. C'est pour ça que j'ai besoin d'un café. On parle pas souvent en plus ici. En plus, moi, je suis pas très bien placé parce que je regarde pas la télé, moi. Je regarde pas la télé, je regarde pas les chaînes d'info, donc mon avis est pas tellement intéressant parce que je ne connais pas le contenu de cette chaîne. Je connais pas bien le contenu de la télévision non plus. Mais voilà, j'ai noté, puisqu'il y a eu beaucoup d'articles ces derniers jours, de communiqués aussi victorieux de la chaîne sur les réseaux sociaux, que CNews est devenue, serait devenue la première chaîne d'info française. Voilà, il la croit, on parle ce matin. Et se pose cette question, la polarisation des médias est-elle inéluctable? Défécateur a écrit dans le chat ça, mais dire que tu aurais pu bosser sur CNews au lieu d'en partir, tu serais dans le succès maintenant. Car oui, Défécateur a raison. C'est samedi les bonnes nouvelles. Original Pimous. Oui, j'ai travaillé à CNews. En fait, non. Dieu m'en garde. Jeanne, au secours. Non, j'ai travaillé 9 ans pour iTélé. iTélé qui est l'ancienne CNews, hein, qui était la chaîne d'info de Canal+, qui avait une ligne éditoriale radicalement différente de CNews. Et puis, au bout de 9 ans, moi, dans le groupe Canal+, je suis parti, j'ai rejoint France Télévisions. Puis, quelques temps plus tard, iTélé a été racheté par, et Canal+, d'ailleurs, par le groupe Bolloré. Et iTélé est devenu CNews. Voilà. Donc, j'ai travaillé à iTélé 9 ans. Je présentais les journaux, je présentais la revue de presse, je présentais des émissions de débat, tout ça. Mais je n'ai jamais travaillé chez News. Et d'ailleurs, dans l'actuel CNews, il y a très 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 peu de gens qui travaillaient avant à iTélé. La plupart des journalistes d'iTélé, la plupart, hein, sont partis. Voilà. Là où tu passes, Bolloré rachète juste après par contre. Oui, c'est vrai. Parce que peu de temps après que j'ai quitté Europe 1 a été racheté aussi. Ouais. Attention, parce que vous allez voir qu'un jour Twitch va être racheté aussi. Tu es parti avec la clause de conscience ou avant? Oh, bien avant! Ouais, bien avant. Et, bon, le rêve n'est pas acheté encore. Moi, je suis parti parce que je voulais faire autre chose. Alors, lisons cet article. Pour la première fois, CNews, accusé de mettre en avant les idées d'extrême droite, a été la chaîne d'information en continu la plus regardée sur une année. Voilà. Une évolution inédite qui entérine une recomposition de l'espace médiatique français dont la situation se rapproche de celle que connaissent les États-Unis. Comme toujours avec la croix, on est sur quelque chose d'assez carré, apaisé, on essaie de comprendre, quoi. C'est une première en 2025, CNews a été la chaîne d'information en continu la plus regardée par les Français. Avec 3,4% de part d'audience, elle s'offre un record historique pour une chaîne de sa catégorie selon Médiamétrie. Jamais une chaîne d'info n'avait atteint une telle audience. 3,4% de part d'audience. La marque du groupe Canal+, dans le giron de l'homme d'affaires Vincent Bolloré, creuse ainsi l'écart avec sa proche concurrente BFM, qui cumule 2,8% de part d'audience. Cette percée significative entérine la polarisation de l'espace médiatique français. Polarisation, ok. Celui-ci, jusqu'alors composé d'un cœur central modéré, d'une part, et d'autre part, de nouveaux médias anti-élites fortement politisés, selon le sociologue spécialiste des médias Théophile Lenoir. Parmi ces derniers, CNews, auquel on reproche de mettre en avant des idées d'extrême droite, hein, c'est ce qui est reproché par ses détracteurs à CNews, qui a rejoint la cour des grands et fait désormais partie des médias à forte audience. C'est ça la nouveauté. CNews numéro 1 des chaînes d'info. Une évolution préoccupante selon ce chercheur à Sciences Po et qui se rapproche de la situation qui existe aux États-Unis où il y a une polarisation des opinions très forte, vous savez. Cette polarisation inédite selon l'historien des médias Patrick Evenot est le reflet de la détérioration du débat public en général. D'après un sondage OpinionWay pour le groupe Les Échos Le Parisien, publié en novembre 2024, 53% des Français pensent que la qualité du débat public s'est détériorée, dégradée au cours des dernières années. 72% estiment que ce débat public ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, car il est trop violent. Et je suis d'accord avec ça. Il faut néanmoins remettre la progression de CNews en perspective. Écrit la croix. À elles toutes, si vous additionnez toutes les audiences des chaînes d'info, les chaînes d'info d'information continue ne cumulent que 9% de part d'audience. Hein. La croix nous dit qu'il faut relativiser cette puissance, en fait. Toutes les chaînes d'info, c'est 9%. Et si CNews occupe la première place parmi ces dernières, c'est qu'elle bénéficie du fait que ses téléspectateurs la regardent plus longtemps. Notamment en raison de ces débats en plateau, puisque vous savez que CNews, c'est moins de journaux que les autres chaînes, c'est des journaux plus courts et des émissions de débats. Voilà. Et en fait, les téléspectateurs de CNews regardent plus longtemps CNews, simplement parce que les rendez-vous de CNews sont surtout des rendez-vous de débats qui donc se consomment sur une durée plus longue que les JT. Pourtant, elle attire moins de téléspectateurs, par exemple, que BFM. En nombre de téléspectateurs uniques. Hein, BFM comptabilise 45 millions de téléspectateurs sur le mois de décembre, 39 millions pour CNews. Des chiffres qui révèlent des usages différents. Les téléspectateurs de BFM regardent la chaîne de temps en temps pour s'informer, tandis que ceux de CNews la regardent notamment pour ses plateaux et leurs incarnations Pascal Pro en tête. Le classement global des chaînes de télévision reste largement dominé par TF1. Qui cumule 18,7% de part d'audience sur l'année. France 2, deuxième, 14,9%. CNews, sixième, quand même. Hein. Derrière France 5. C'est pas rien. Hein. Sixième. La domination de CNews relève ainsi d'un effet d'optique, estime Thibaut Brutin, directeur général de l'ONG Reporters sans frontières. Ajoutant que celle-ci doit d'autant plus être relativisée qu'elle est selon lui le fruit d'une concurrence déloyale. C'est intéressant, Peroun 5 s'est penché à travailler sur le phénomène de la polarisation des opinions et nous dit dans le chat, quand je faisais des recherches pour mon mémoire sur le sujet, on compare souvent avec les États-Unis, la France est encore loin, mais s'approche à sa façon d'une polarisation des médias. Le plus perturbant est qu'en vérité, on sait que les rouages qui mènent à la polarisation, on les connaît, mais on voit difficilement les points qui vont à terme permettre d'endiguer ce phénomène. Et c'est bien là le problème de la polarisation. Alors pourquoi ce monsieur parle de concurrence déloyale pour CNews? C'est facile d'arriver premier dans ces conditions. Il est désespérant de voir la façon dont CNews contourne les règles du pluralisme ou organise des campagnes de dénigrement contre un concurrent en s'en prenant à l'audiovisuel public, alors que le reste des acteurs s'acharnent à faire les choses correctement. Constat partagé par le sociologue Théophile Edouard, bien sûr CNews affirme respecter le pluralisme, mais elle ruse avec les règles en invitant par exemple des personnalités de gauche à des heures tardives de faible écoute. CNews, compte tenu de sa progression, pourrait-elle faire des émules? Alors, est-ce que la recette CNews pour faire de l'audience pourrait inspirer d'autres médias? Pour des raisons à la fois économiques et politiques, certains médias peuvent être tentés de surfer sur des idées extrêmes, anti-élite, issus de sources peu fiables. Analyse Théophile Lenoir. Thibaut Brutin, directeur général de Reporters sans frontières, se montre plus optimiste. Ah, je suis désolé, je suis arrivé. Il y a pu y avoir à quelque temps une tentation de suivre CNews, de répliquer ses méthodes, mais la réputation du groupe Bolloré s'est très largement détériorée et la majorité des acteurs sérieux n'ont pas envie de lui ressembler. CNews dispose d'un pouvoir de nuisance de la chaîne sur le débat public, estime toutefois l'historien Patrick Evenot, une influence qui tient à la teneur de ses débats. CNews offre aux téléspectateurs la possibilité d'un plateau sur lequel on s'invective mais où au fond tout le monde est d'accord. Non, c'est dans La Croix, Blue Sky. Un chercheur qui risque d'infuser en rendant plus difficile pour les autres médias de faire accepter une saine contradiction. Pour l'heure, la plupart prennent toutes les précautions nécessaires et travaillent d'arrache-pied pour respecter le pluralisme, souligne Thibaut Brutin qui cite France Télévisions qui calcule très sérieusement ses équilibres politiques, ou BFM qui opère un travail conscient et développe une lecture très attentive de ses antennes pour comprendre son public. Je vous lis. Je vous lis. Merci Valatop. Merci Julio Franchute. Alors. Pas mal de médias en font tout un plat, me dit Horizon 101, mais 60% des téléspectateurs ont plus de 50 ans, rapporté aux parts d'audience et à la démographie, ça ne représente pas grand-chose en consommation d'infos par la population totale. Okay. Les gens aiment le drama et Pascal Praud est un rage-baiter, on dit du pignol, on parlait de rage-bait tout à l'heure. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que CNews a encore été condamné récemment par l'ARCOM. Oui, je crois, oui. Ou averti en tout cas. Du coup, si on supprime la chaîne, on dit quoi aux millions de téléspectateurs, dit Mester. Vous pensez mal, on va supprimer votre chaîne préférée, il faut de tout en fait. Moi, je n'aime pas France Inter, je ne suis pas pour sa suppression. Mais tu as raison, Mester. D'ailleurs, l'article ne réclame pas la suppression de CNews. Merci DG Malco pour le Prime. Je vous lis, je vous lis, je vous lis. Bon, après, moi, ça me passionne pas. Hein. La vie de la télé, quoi. Les audiences des uns et des autres. Ce que nous dit la Croix, c'est qu'il faut... oui, CNews est devenue la première chaîne d'info en France, mais qu'il faut relativiser peut-être l'influence réelle de CNews sur l'opinion publique, quoi. Sans demander leur fermeture, on demande qu'ils respectent les règles, me dit Babar 170. Chez les journalistes, CNews est vu comment? Est-ce que c'est glorieux d'aller bosser là-bas? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Moi, je ne connais pas de journaliste de CNews. Et je connais de moins en moins de journalistes aujourd'hui, d'ailleurs. C'est un milieu dont je me retire doucement. Alors, Paf le sang, on n'est pas d'accord avec ça. Il faut pas trop relativiser quand même qu'une chaîne d'opinion conservatrice de surcroît soit première chaîne d'info, ça dit quelque chose de grave. Kiwi Toumou, très joli pseudonyme, mais tu te considères plus comme journaliste? Je m'inscris toujours dans une démarche journalistique, mais j'ai moins envie que par le passé de travailler pour des médias traditionnels, oui. Moi, je le vois malheureusement sur mon entourage, Samuel me dit au Elive. Ils ne parlent que de ce qu'ils ont vu sur CNews. Et leurs paroles et prises de position font foi pour beaucoup à cause de ça. Dommage d'avoir des chaînes ainsi polarisées, dit Captain Rooster, parce que ça enferme les gens dans leurs opinions. Bonjour Samuel, penses-tu que Monsieur Pro est légitime en ayant un parcours de journaliste sportif? J'ai pas d'avis sur ce genre de choses. On peut tous se réinventer professionnellement. Et je ne consomme pas Pascal Pro, donc je ne peux pas vous dire ce que je pense. J'ai aucun avis sur son contenu, quoi. Il faudrait peut-être que je me force. Tourtaldro, non, il y a une réelle influence qu'il ne faut pas ignorer. Ce serait naïf de faire ça. Cette chaîne se fascise de plus en plus chaque jour et n'a que peu de scrupules à enfumer la réalité. Jack Wilster, ce qui est surtout grave, c'est que l'influence que CNews a sur les personnes qui ne sortent pas beaucoup de chez eux, dont la seule source d'information est CNews. Tu prends l'exemple de pourquoi tu parles des agriculteurs? Je crois que les agriculteurs consomment plus CNews que le reste de la population, personnes âgées notamment, dis-tu aussi, bien sûr pas tous, mais ce sont les plus touchés. Ces personnes finissent avec une vision erronée de la France et de ce qui s'y passe, alors qu'il y a beaucoup de désinformation dans leurs propos. Bah, alors je vais m'obliger à regarder, parce que Thiel Paris me dit, Samuel, tu bottes en touche, c'est important d'avoir un avis sur l'un des animateurs les plus influents, malheureusement. Bon, je vais me forcer. Le problème, c'est que moi, je vais me forcer même à regarder la télé. Ce que tu me demandes, c'est de regarder la télé. Moi, je ne regarde pas la télé. Et donc, le minimum d'honnêteté intellectuelle, c'est de parler d'un truc qu'on a regardé, quoi. Et je ne regarde pas la télé. Alors, je regarde encore moins les chaînes d'info et encore moins CNews. Donc là, tu me demandes de me faire violence, quoi. Mais écoute, je regarderai. Promis. Ah. À 2026, let's go, quoi. Ok. Bon, on y reviendra. Je vois que ça vous intéresse plus que ce que je pensais. Ok. Malheureusement, ce n'est pas de la fake news pure, dit René Descartes. C'est plus insidieux, car il présente des faits réels, mais le focus exclusif est l'angle de traitement, d'attaque et dramatique. Voilà, résolution pour 2026 pour Samuel Etienne. Regardez ces news. Let's go. Alors, on va aller en Iran maintenant. On va parler d'actualité internationale également ce matin, avec ce vent de révolte qui se lève en Iran. Comme ça, s'il se passe des choses dans les prochains jours, vous aurez certaines clés de lecture. Iran, un vent de révolte se lève. Des foules protestent depuis deux jours en Iran contre le coût de la vie, les prix. Ah, j'ai sauté un sujet ? Ah, l'humeur des Français ! Ouh ! Pardon. Excusez-moi, j'ai sauté un sujet. Je reviens en arrière. Oui, j'ai sauté l'humeur des Français. Enfin, j'ai sauté... Oui, enfin, ouais. Je suis passé outre. Je reviens en arrière. Eh oui, oui, alors c'est l'interview d'un sondeur, d'un spécialiste des sondages. Alors, on est toujours un petit peu sceptique, dubitatif, les sondages. On les prend avec des pincettes. Mais moi, j'aime bien Bernard Sananès. C'est lui, hein ? Est-ce que c'est lui ? Oui, président des Labs, c'est quelqu'un que j'ai reçu dans ma vie d'avant sur les plateaux, justement, de iTélé. Voilà. Et je trouve que c'est un monsieur qui a une analyse assez intéressante, notamment de la vie politique française. Et là, on a sa vision des humeurs, des opinions politiques des Français aujourd'hui. J'ai trouvé l'article plutôt intéressant. Le sentiment des Français, c'est que le bateau France flotte, mais n'avance plus, c'est le titre de l'article. Voilà. Emmanuel Macron d'abord. Ah ! Parce qu'on ne parle pas beaucoup d'Emmanuel Macron sur cette chaîne. On a plus parlé récemment d'anciens présidents de la République en prison, par exemple. Alors Emmanuel Macron a atteint un plus bas dans l'opinion. À moins de 18 mois de la fin de son mandat, est-ce que les Français attendent encore quelque chose de lui ? Réponse de Bernard Sananès. Sur l'international, l'affirmation de l'Europe, il dispose encore d'un capital de crédibilité et sa vision de la souveraineté rassemble au-delà des clivages politiques. Mais face à la peur de la guerre et de son éventuelle extension, les fragilités du pays ne lui permettent pas d'endosser totalement les habits du président protecteur. Sur la scène intérieure, la dissolution a définitivement brisé le lien entre le cœur même de son socle électoral et celui censé incarner la stabilité des institutions. Je lisais un autre article ce matin qui expliquait qu'il y a vraiment un avant et après la dissolution et qu'il y a très 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 peu de Français qui comprennent son move de la dissolution. Dans les enquêtes, les critiques de cette décision incomprise sont d'une rare virulence. À chacune de ces initiatives, l'écho de l'opinion renvoie un « fallait pas dissoudre ». Quand il s'exprime sur la drogue ou sur les réseaux sociaux, comme il l'a fait récemment, pourtant consensuel, l'impact de sa parole est plus que limité. Un président qu'on n'écoute plus beaucoup, quoi. Sur le front intérieur, la dissolution a rendu le président inaudible et sa capacité d'agir réduite. Dans ses vœux, ce soir, hein, 20h, je crois, il aura fort à faire pour que les propos attendus sur l'année utile ne laissent pas les Français sceptiques. Que peut-il sauver de son héritage ? Question des échos à Bernard Sananès. Une partie de sa politique économique, surtout l'attractivité et l'assouplissement du marché du travail. Mais si 2026 apporte de mauvaises nouvelles sur l'emploi ou la réindustrialisation, le bilan pourrait apparaître assez réduit aux yeux des Français. Prenons l'exemple de l'éducation. Au cœur de son projet de 2017, depuis le dédoublement des classes, rien de lisible n'est mis au crédit du président Macron. Question. Pour la deuxième année consécutive, la France n'a pas pu se doter d'un budget. Non, c'est les échos. C'est les échos. D'un budget. Quel impact cela a-t-il sur l'état d'esprit des Français? Parce que l'instabilité apparaît comme encore plus à risque. Dans un contexte de vulnérabilité internationale, géopolitique, économique, climatique ou sécuritaire, l'absence de budget résonne comme l'opinion, dans l'opinion comme celle d'un pays sans cap, sans Gouvernail. Ah, je me suis gouré sur le logo. Je vous le change tout de suite. Hop. Magique. Magique système. Vous n'avez pas mis le bon logo de journal. Un pays donc sans cap et sans gouvernail alors que les tempêtes se déchaînent autour de nous. Le sentiment des Français est celui-ci, le bateau France flotte mais n'avance plus. Beaucoup expriment le sentiment d'une impasse, d'un pays à l'arrêt. Quand le pays n'a pas de budget, les Français ont moins de projets. Alors, souvent, on sous-estime l'impact de la politique sur l'état réel du pays. Il y a la politique et il y a le pays. Mais ce que dit Bernard Stéanet, c'est autre chose. Quand le pays n'a pas de budget, quand le pays est à ce point dans le flou politiquement, qu'il n'y a pas de cap, hein, que c'est le bordel, les Français ont moins de projets. Les Français individuellement sont impactés en fait par cette morosité globale, nationale, publique. On le voit avec la natalité, l'épargne, l'immobilier. Le pessimisme collectif commence à infuser sur le moral individuel. Parce que quand vous interrogez les Français sur leur morale, ils disent que globalement, eux, ça va. Mais ils, c'est ce qui ressort des enquêtes, enfin, globalement, quoi, vite fait. Mais ils sont inquiets pour le pays. Voilà. Le pessimisme collectif commence à infuser sur le moral individuel, déboussolé, désemparé, souvent désespéré de leur situation ou celle du pays. Les Français sont prêts à écouter quelles voix, les voix de la rupture. Qu'en est-il des milieux économiques ? L'économie française semble plus résiliente que prévu. Oui, mais beaucoup de patrons sont inquiets du décrochage de la France et redoutent que 2026 voit se creuser le fossé entre nous et nos voisins européens. Beaucoup d'entre eux ont soutenu les choix économiques du candidat Macron et du premier quinquennat. Eux aussi critiquent sur la dissolution. Ils désapprouvent également la non-maîtrise du déficit et surtout l'absence de réforme de l'État. S'ils se méfieront de tout engagement pour tel ou tel, ils savent que le crédit donné aux chefs d'entreprise face au discrédit des politiques et l'efficacité perçue des entreprises face à l'inefficacité des politiques publiques ouvre un espace important pour que la voix de l'entreprise soit écoutée par les citoyens au-delà du lobbying traditionnel. Ouais, c'est intéressant ce que dit Archange. 57, si on est objectif, critiquer la dissolution, c'est aussi critiquer la démocratie. Au début, je ne comprenais pas ce que tu voulais dire, puis je comprends. C'est intéressant, car au final, c'est le résultat du vote des Français qui est décrié. Donc, au final, on préférait une majorité qui ne reflèterait pas le vote des Français, à chacun aussi de réfléchir aux conséquences de son propre vote sur le résultat à l'Assemblée. Salut, Superfab. Beaucoup d'enquêtes demandent les échos. Ont montré que les Français demandent aux politiques, justement ces blocs à l'Assemblée, ces partis, hein, de se mettre d'accord, d'arriver à discuter. Alors comment expliquer que ce ne soit pas les forces qui cessaient au compromis qui soient gagnantes de la situation ? Rappelons d'abord que la séquence n'est pas terminée, mais sa longueur, sa fausse dramaturgie n'ont pas renforcé la culture du compromis dans notre pays. L'impression qui domine est celle d'un compromis paralysé, d'un compromis sans tête. Surtout, même quand on suit la discussion pas à pas, qui peut répondre à cette question pourtant majeure ? Est-ce que ce budget réduit ou pas le déficit ? C'est vrai qu'on parle de la très faible popularité du président, mais dans cette séquence qui aurait dû être une séquence parlementaire forte, avec la réalité du pouvoir qui est davantage au Parlement, à l'Assemblée, que du côté de l'exécutif, en raison de l'absence de majorité pour le président Macron. Et on aurait pu imaginer que les partis, les députés allaient en sortir grandis. Et au vu du spectacle donné à l'Assemblée ces dernières semaines notamment, cette incapacité des partis à s'entendre sur une espèce de base minimale pour que le pays continue à fonctionner, les Français sont très critiques là-dessus, quoi. Ce contexte peut-il peser sur les prochaines élections ? Avant la présidentielle de 2027, il y a les municipales dans moins de 3 mois, en mars prochain. Il peut entretenir ce climat, une mise à distance du scrutin et entraîner une participation plus faible que lors des scrutins précédents. Mais la fin du cumul des mandats contribue aussi à la décorrélation de la situation politique nationale et municipale. Quelle leçon pourra-t-on tirer de ces municipales? L'absence de sortants représentant directement le parti au pouvoir empêchera la lecture habituelle d'un vote sanction ou pas. Voilà. Il n'est donc pas sûr qu'on puisse cette fois tirer des leçons nationales. Il y a cependant quelques enjeux à suivre. L'ancien monde qui constitue au municipal le camp des sortants, LR et PS résistera-t-il? Du côté des entrants, les derniers entrants sur le paysage politique, RN et LFI vont-ils faire une arrivée en force dans les conseils municipaux et ensuite politiser les débats qui en mairie ou en intercommunalité sont souvent consensuels? La course à la présidentielle est déjà engagée. La victoire du candidat ou la candidate du RN est-elle inéluctable? Ah, ça c'est une question importante. Le RN entame cette pré-campagne présidentielle en position de favori avec une avance spectaculaire, dit M. Sananès. Il n'a jamais été dans cette situation. Si l'histoire politique nous a appris que la position du favori n'était pas toujours la plus enviée, la volonté de rupture, le discours anti-déclin, l'aspiration à l'ordre, le sentiment que tous les politiques ont échoué sont un puissant carburant pour le RN. En cette fin d'année, j'observe deux choses. Sur un plan sociologique, il y a l'augmentation forte des intentions de vote des retraités vers le RN. Sur un plan politique, les propos de Nicolas Sarkozy constituent une légitimation très forte à ne plus exercer le front républicain, puisque M. Sarkozy, dans son dernier livre, notamment celui qu'il a écrit en prison, appelle à la fin du front républicain contre le Rassemblement national. Hein, ce qui pourrait faire céder, effectivement, une partie des digues. RN surcoté dans les sondages comme à toutes les élections. C'est exactement l'inverse, gros lardon. Le RN n'a cessé de progresser dans toutes les élections nationales, législatives et présidentielles de ces dernières années. Et longtemps, les instituts de sondage ont eu un souci puisque ils avaient du mal à mesurer le vote FN hier et RN aujourd'hui puisque les gens ne se déclaraient pas facilement électeurs de ces partis. Et du coup, les sondeurs essayaient de mettre des corrections puisqu'ils se rendaient compte que les élections donnaient toujours des résultats supérieurs aux sondages. Aujourd'hui moins, puisqu'aujourd'hui les gens assument plus ce vote. Mais factuellement, de dire que les sondages donnent toujours le RN au-delà des résultats des élections, c'est exactement l'inverse en fait. C'est exactement l'inverse. Ce qui est frappant, c'est le contraste entre les partis protestataires et les partis de gouvernement. Le RN et LFI sont quasiment en ordre de marche. Le grand flou règne du côté des partis de gouvernement, tant sur le candidat que sur le mode de désignation. Si leur seul slogan se résume à tout sauf le RN, cela ne suffira pas, dit-il. Mais à l'inverse, la présidentialité de Jordan Bardella reste un immense point d'interrogation. Aujourd'hui, le duo qu'il forme avec Marine Le Pen rassure son électorat, mais qu'en sera-t-il le jour de l'éventuelle substitution? Enfin, on aurait tort d'écarter, loin des accords d'Paris, la possibilité de voir émerger un front républicain citoyen autour d'un candidat modéré. Emmanuel Macron a été élu en 2017 sur fond à l'époque de fort dégagisme. Est-il encore plus fort aujourd'hui? Lassitude, écœurement et colère dominent quand on interroge les Français sur la situation politique. L'espoir même fugace qu'avait suscité Macron correspondait à une société française moins pessimiste, moins inquiète qu'aujourd'hui. 2017, c'est une envie de liberté de mouvement. 2026, nous avons une société marquée par les peurs et l'absence de confiance. Le candidat de 2027 devra répondre en même temps à ces deux questions. Qui me projette et qui me protège? Intéressant. Bon, je pense qu'on n'a rien appris dans cet article, mais ceci est relativement clairement dit. Je vous lis, bande d'amis. Alfacto estime que dans sa majorité, les politiques sont l'aristocratie d'avant. C'est un entre-soi qui veut garder le pouvoir pour soi et donne l'illusion de le partager pour se maintenir. peu importe le parti, ils n'auront pas la majorité à l'Assemblée. Alex, que veux-tu dire? Que le risque de 2027, c'est qu'on ait un nouveau président, une nouvelle présidente, mais qu'au vu de la polarisation extrême du débat public, il n'est pas sûr qu'il ait une majorité à l'Assemblée et qu'on retombe dans une situation politique extrêmement peu lisible comme aujourd'hui. C'est ça que tu veux dire? C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est ce que dit Master. La France est trop divisée de toute façon. Quel que soit le président, il sera empêché, ralenti. C'est pas possible. Tellement pas envie d'arriver à 2027, ça pue tellement Auditoria. Ça tombe bien, on va bien profiter de 2026. Ok. Amnaxius dit on coupe la France en deux et on fait deux pays. Charlie Toucourt n'a pas tort quand il dit on concentre trop d'attentes et d'espoir sur la politique partisane. On ne devait pas donner notre avis avec des référendums en 2025? Oui. Le président Macron avait à plusieurs reprises a promis qu'il allait consulter les Français par référendum, et en fait il ne l'a pas fait, et beaucoup d'analystes disent qu'il ne le fera pas. Voilà. Bon, on aura l'occasion d'en reparler cette année 2026 qui s'annonce sur une année où on va beaucoup parler bien sûr de 2027. Allez, pardon, j'avais pris un petit peu d'avance, mais maintenant on va en Iran. On parle aussi de pouvoir, mais là on parle d'un vent de révolte qui se lève contre le pouvoir iranien. C'est dans les Échos. Des foules protestent depuis 2 jours en Iran contre la vie chère, contre l'inflation, voilà, appelant même à la chute du régime. Lisons, je trouve ça vraiment intéressant. Un vent de révolte souffle brusquement qui pourrait devenir tempête sur l'Iran. Des cortèges se sont formés spontanément dans de nombreuses villes du pays lundi, mardi, pour protester contre l'inflation supérieure à 50% par an, voire à 150% sur certains produits comme le riz, 255% pour les haricots. Pénurie de médicaments, médiocrité des services publics, coupure d'eau potable depuis des mois et d'électricité. Voilà ce qui se passe en Iran. Mais les manifestants appellent aussi à la chute du régime, avec des slogans classiques, mort au dictateur, mort à la République islamique, femme, vie, liberté, ainsi que d'autres inédits, la Palestine, tu peux te la... ou encore, ni Gaza, ni Liban, ma vie pour l'Iran, visant les coûteuses ingérences régionales de Téhéran. Fait sans précédent, des foules ont appelé à une coalition entre républicains laïcs et monarchistes, évoquant même le rétablissement de la dynastie Pahlavi, renversée par les islamistes il y a 47 ans. Je pense qu'on parle de la chute du Shah d'Iran. Alors que la grande majorité des 88 millions d'Iraniens n'ont jamais connu ce système monarchique. Par un effet domino, la contestation partie dimanche. Des commerçants du bazar central, pourtant soutien habituel du régime des mollahs, s'est propagé à des groupes sociaux très divers, classe moyenne, ouvriers, étudiants. Ces derniers ont protesté mardi dans plusieurs universités, à Téhéran, à Ispahan. De nombreuses échoppes étaient fermées mardi dans diverses villes. En revanche, nulle grève d'ampleur dans des usines n'a été signalée. Plusieurs provinces dans le nord, dans l'ouest ont été touchées. Des vidéos diffusées sur les réseaux montrent des manifestants assis, défiant des miliciens à moto, voire chargeant des cordons de policiers. Aucun bilan d'éventuels affrontements n'a été communiqué mardi, quoique des policiers aient été vus tirant avec sans doute des balles en caoutchouc sur des manifestants. Les autorités ont décidé une fermeture exceptionnelle aujourd'hui des écoles, des banques, des établissements publics, en raison officiellement du froid et pour économiser l'énergie, sans faire de lien avec les manifestations. Le facteur clé de la colère, l'inflation, les prix, est alimenté par l'effondrement du rial, hein, la devise iranienne, qui a enfoncé un plancher historique lundi sur le marché noir. Effondrement consécutif au rétablissement des sanctions occidentales fin septembre, renchérit automatiquement les produits de consommation massivement importés. Si le regain d'inflation est nourri par le rétablissement des sanctions de l'ONU en raison du refus de régime de démilitariser, de démanteler son programme nucléaire militarisé, la médiocrité des services publics s'explique par la corruption, la gabegie et l'incompétence du régime. Il y a un spécialiste de la région qui s'appelle Sanam Vakil qui dit « La seule issue pour résoudre cette crise socio-économique serait d'obtenir une levée des sanctions via un accord avec les États-Unis, mais le régime ne peut s'y résoudre pour des raisons idéologiques. » Le gouvernement a annoncé le remplacement du gouverneur de la Banque centrale. Blablabla, blablabla, bon, c'est un peu la panique. Espérant visiblement désamorcer la révolte, le président iranien Massoud Pezeshkian, deuxième personnage de l'État derrière le guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei, a appelé mardi à écouter les revendications légitimes des manifestants. Il a annoncé avoir donné des instructions en ce sens au ministère de l'Intérieur. En clair, y aller doucement sur la matraque. Mais le régime saura recourir à une répression féroce s'il se sent vraiment menacé. C'est ainsi qu'il a sauvé sa peau lors de chacune des quatre grandes flambées de contestation depuis l'instauration de la République islamique en 1979. 2009, répression contre une élection volée. 2017, répression contre la hausse des prix de l'alimentation, notamment des œufs. 2022, répression contre le voile imposé aux femmes. Enfin, contre la mobilisation, contre le voile, vous l'avez compris. Le régime a fait exécuter 1500 personnes depuis le début de l'année pour des motifs de droit commun contre eux comme politique. La police anti-émeute surveillait mardi les principales places du centre de la ville. À suivre. À suivre. Alors, c'est pas la première fois que le peuple iranien se mobilise contre le régime. Ce que nous rappelle cet article des Échos, c'est qu'à chaque fois, ça s'est terminé avec une répression féroce. Non, c'est pas la première fois qu'on en parle dans cette revue de presse, mais on va suivre cette actualité dans les prochains jours. Des questions ? Rose Eagle, est-ce que l'article fait mention de la sécheresse qui empire la situation du pays? Non, pas dans l'article, non. Enchaînons. Et je vous emmène en Chine, parce qu'on voyage ici. On va pas se regarder le nombril. La vie poétique politicienne H24 dans cette revue de presse, on va s'intéresser aussi, pour le dire trivialement, au kiki des Chinois, hein, puisqu'on va parler de préservatifs en Chine. L'info est surréaliste, tellement surréaliste qu'on n'a pas envie d'y croire, et pourtant, Le Monde nous explique que le pouvoir chinois a décidé d'augmenter le prix des préservatifs pour que les Chinois fassent plus d'enfants. Voilà. Avec une hausse de la TVA qui risque de limiter l'accès à la contraception et d'augmenter la transmission du VIH alors que le virus progresse dans le pays. Comme le dit Homer, le pouvoir chinois qui finance le retour des MST. Le truc est surréaliste. Au prix d'environ 3 euros la boîte de 3 dans cette supérette d'un quartier résidentiel de Pékin, un seul préservatif coûte autant qu'un paquet de cigarettes d'entrée de gamme. À partir du 1er janvier 2026, bonne année amis chinois, il sera un peu plus cher. La Chine appliquera une taxe de 13% sur les préservatifs, mais aussi sur la pilule. Ah bah oui. Pardon. Ah oui, j'avais pas vu. Aussi la pilule, plus cher. Mettant fin à une exemption fiscale vieille de 30 ans. Ce changement interviendra dans le cadre d'une réforme de la TVA sur fond de relance de la natalité. En fait, il s'agit de forcer les Chinois à avoir des enfants. C'est marrant parce que pendant des décennies, le pouvoir chinois, le pouvoir central, a empêché les Chinois d'avoir des enfants, au-delà de l'enfant unique, vous savez. Et maintenant, ils veulent obliger les Chinois à faire des enfants. toujours fascinant quand les pouvoirs politiques se mêlent du désir d'enfant des populations. Toujours fascinant. Donc toute une réforme, hein, dans laquelle vous avez aussi un allègement fiscal pour les services de garde d'enfants et les services de mise en relation matrimoniale, soit les agences et les sites de rencontres. Sur les réseaux sociaux en Chine, certains se moquent de la mesure, soulignant que le coût pour élever et éduquer un enfant, principal frein à la natalité dans le pays, demeure très supérieur au surcoût d'un préservatif. Des prix plus élevés pourraient réduire, en revanche, l'accès aux contraceptifs parmi les populations économiquement défavorisées, entraînant potentiellement une augmentation des grossesses non désirées et des infections sexuellement transmissibles. De toute façon, quand tu augmentes le prix des préservatifs, qu'est-ce que tu souhaites ? Tu souhaites manifestement augmenter le nombre de grossesses non désirées. Hein ? Ces conséquences pourraient à leur tour mener à davantage d'avortements et à des coûts de santé accrus. Dans un pays où la transmission sexuelle représente 97% des nouveaux cas de sida signalés, on observe une hausse rapide du virus chez les plus de 60 ans. Dans la province du Yangtze, par exemple, les plus de 50 ans représentent 61% des nouveaux cas de VIH signalés entre janvier et octobre 2023. La sexualité des seniors, encore tabou en Chine, reste exclue des campagnes de prévention chinoises. Protéger la vie ne doit jamais avoir de limite d'âge. Répondre aux besoins des seniors confrontés à la solitude, à l'incompréhension ou à la stigmatisation n'est pas seulement une nécessité de santé publique, c'est une responsabilité morale, c'est emporter le journal China Daily. Avec un taux de fécondité tombé à un enfant par femme, alors qu'il en faudrait 2,1 pour maintenir une population stable, le pays est victime d'une fécondité ultra faible, selon les mots de l'ONU. Toutes les solutions semblent donc bonnes aux yeux du pouvoir chinois pour stopper cette défaillance. 9,54 millions de naissances en 2024, hein, quasiment la moitié de l'année 2016 par exemple. 18,8 2016, l'année suivant la fin de la politique de l'enfant unique qui, durant 36 ans, de 1980 à la fin 2015, a interdit aux couples chinois d'avoir plus d'un enfant. Bon, il y avait des exceptions, mais c'est pour donner un petit peu le cadre. Voilà, on se régale. Captain Simu vient d'offrir, les amis, 10 abonnements à la communauté. Merci beaucoup. Merci Captain Simu, merci du soutien en cette fin d'année. Ces derniers mois, l'État a donc multiplié les incitations à procréer. En juillet, il a introduit une subvention de 438 euros par enfant et par an jusqu'à ses 3 ans. Depuis septembre, les frais de scolarité pour ceux en dernière année de maternelle sont pris en charge dans le système public, en partie dans le privé. Et début décembre, le gouvernement a annoncé rembourser les frais liés à l'accouchement. L'approche psychologique est aussi exploitée. En décembre, plusieurs médias officiels ont mis en avant le bénéfice pour la santé des familles nombreuses en s'appuyant sur une étude de l'Université de Pékin selon laquelle le risque de décès d'une maladie chronique comme le diabète serait moins élevé chez les adultes ayant 3 enfants. C'est quand même surréaliste de voir que le même pouvoir chinois qui pendant des décennies a essayé d'expliquer aux Chinois que c'était mal, que c'était le diable d'avoir plus d'un enfant, ce même pouvoir aujourd'hui explique radicalement l'inverse. Alfacto dit une politique très nataliste, rien de fou comme news. Si augmenter le prix des préservatifs au risque de faire bondir les IST et les MST dans le pays et de faire progresser le sida, c'est fou comme news, Alfacto. Si, c'est complètement fou en fait. Et si pour toi, augmenter le prix de la pilule dans un pays ou augmenter le prix des préservatifs, c'est une banale politique nataliste, je ne voudrais pas vivre dans ton pays. En tout cas, je voudrais pas que tu sois président de ce pays. Si je puis me permettre, en toute amitié. Une vidéo générée par IA tourne actuellement sur les réseaux sociaux en Chine, mettant en scène une quinquagénaire en pleurs parce qu'elle se retrouve toute seule à l'hôpital, alors que le patient du lit voisin est entouré de sa famille. Voilà, elle regrette son choix d'être restée célibataire et sans enfant. Il y a des panneaux dans la rue aussi pour rappeler les joies de la famille. De quoi irriter Phoebe Zhang, correspondante en Chine continentale d'un journal de Hong Kong. L'esprit des gens ne peut pas être si facilement influencé par la propagande lorsqu'ils ont besoin d'une aide concrète face aux problèmes qu'ils pourraient rencontrer en tant que parents. Voilà. Non, mais c'est ça en fait ce qui est choquant en Chine, c'est que vous avez la même insistance d'un pouvoir hier pour que les Chinois fassent pas d'enfants, aujourd'hui pour qu'ils en fassent, quoi. Comment voulez-vous que les gens aient confiance dans ces discours? Merci, Captain Simu, merci encore. Et tu prends un abonnement pour toi en plus. Désolé de me moucher comme ça. Ouais, comme dit Gépif, sinon j'ai une autre idée, faire une société qui donne envie d'y élever des enfants, voilà. Merci, Captain Simu. Merci, Lewis. Merci à toi. Est-ce que Macron n'a pas fait un peu la même chose en parlant de refaire des bébés? Le réarmement démographique, l'expression est catastrophique, oui. Alors là, c'est juste que c'est fait à la façon d'un régime autoritaire, quoi. Les futurs parents sont sûrement trop jeunes pour se rappeler de la politique de l'enfant unique. La politique de l'enfant unique, ils l'ont sous les yeux. Tous les jours. Le taux de fécondité en Chine, c'est un enfant par couple. Par femme, le taux de fécondité. Donc, ils n'ont pas besoin de s'en rappeler, il est littéralement sous leurs yeux. Allez, je lis encore un message ou deux et on enchaîne. Ok. On enchaîne? On enchaîne. Ah! Plus léger, quand même. Les influenceurs. Enfin, les influenceurs, hein, désignés ainsi par les échos, vos créateurs de contenu, youtubeurs, streamers, vous les appelez comme vous voulez. Maintenant, ils font des livres, ils écrivent. Voilà. Et ça se vend. Et parfois, ça se vend très bien. Parfois, ça se vend moins bien. Les influenceurs, nouveau filon des librairies. Alors, ça parle d'Inox Tag, ça parle de Thibaut Inchep, ça parle de l'ENA Situation également. L'ENA Situation, Inox Tag, Thibaut Inchep, les influenceurs sont devenus des locomotives commerciales pour le secteur de la librairie. En vente depuis le 20 novembre, le tome 2 du manga d'Inox Tag, Instinct, s'est déjà écoulé à plus de 185 000 exemplaires. Selon les derniers comptages du 22 décembre. 185 000 exemplaires. C'est énorme. C'est énorme. Confirmation pour ce créateur de contenu, féru de manga depuis l'enfance, qui avait lancé le tome 1 à la fin de 2024. Vous vous rendez pas compte, 180 000 exemplaires, c'est énorme. Depuis, le tome 1, justement, s'est vendu à 560 000 unités. Moi, je ne connaissais pas ces chiffres. Ils sont très impressionnants. En comptant aussi les ventes directes, les deux premiers volets d'Instinct ont franchi le cap des 800 000 ventes. un score XXL pour celui dont le documentaire Kaizen, un an pour gravir l'Everest, retraçant son ascension du sommet, a affolé les compteurs sur YouTube avec plus de 47 millions de vues. C'est des chiffres impressionnants, quoi. Inoxtag a d'ailleurs créé Instinct avec Basile Monod, le réalisateur du documentaire, ainsi qu'avec un dessinateur qui s'appelle Charles Compin. Basile et Charles se retrouvent tous les jours dans une salle d'écriture où Inox a aussi son bureau pour travailler sur le projet dont l'arc narratif ne cesse de s'étoffer. C'est un contenu très éditorialisé, dit la directrice du groupe Michel Lafont, qui n'est pas une simple déclinaison ou un produit dérivé. Merci Open Prunus. C'est central dans les projets d'Inox, qui est très impliqué, ce qui explique le succès du manga. Le tome 3 est déjà prévu, d'ailleurs, pour novembre 2026. Les chiffres atteints de vente du manga d'Inox sont juste incroyables, quoi. L'ENA situation maintenant, 5 ans après, toujours plus, plus égale plus, que je n'ai pas lu. L'ENA situation a fait son retour dans le monde de l'édition fin octobre avec un encore plus. Donc il y avait toujours plus. Il y a encore plus. Nouvel ouvrage de développement personnel. Cette fois, l'influenceuse aux 5 millions d'abonnés sur Instagram a choisi la voie de l'auto-édition et a créé sa propre structure. Près de 2 mois à sa sortie, ce livre frôle les 50 000 unités vendues en librairie, c'est beaucoup, hein, et dans d'autres points de vente. Score solide au regard des standards du secteur, mais qui devrait sans doute démarrer en deçà du premier livre, hein, toujours plus, qui avait placé la barre très haut avec plus de 400 000 ventes hors édition numérique. L'effet curiosité du premier s'est amenuisé, c'était le risque en reprenant un peu trop la même formule. Ah, ils sont trompés sur le titre, c'est encore mieux. Ah, c'est drôle. Ils sont trompés sur le titre? Ils l'ont pas lu alors. C'est pas encore plus, c'est encore mieux? C'est vrai que le titre est mieux. Encore mieux, c'est vrai que c'est mieux que encore plus. Encore mieux. Ils n'ont pas dû le lire. Hein. Encore mieux. C'est mieux. C'est mieux. Alors attention, attention. Être influenceur et écrire ne suffit pas à vendre des livres. Éditer un influenceur n'apporte pas une garantie de succès, comme a pu le constater le directeur de la maison d'édition Fora qui a édité le premier livre de Thibaut Inchep. Voilà. Thibaut Inchep a écrit un livre, un premier livre, qui ne s'est pas vendu. Derrière la lumière, c'est le titre du livre, autobiographie du youtubeur connu pour ses vidéos de musculation. Commercialisée fin octobre, celle-ci s'est vendue à près de... Alors, on n'est pas sur les chiffres d'Inox. Hein. 3500 unités en librairie. 6000 unités en comptabilisant les ventes directes. Selon l'éditeur, le point mort, c'est-à-dire le point où il perd pas d'argent, c'est 12 000 livres. Voilà. Voilà. Pourtant, beaucoup de communications, beaucoup d'invitations. Matinale de France Inter, Quotidien, C'est à vous. L'influenceur aura pourtant eu de nombreuses occasions de promouvoir son livre, mais la mayonnaise n'a jamais pris. Je n'ai aucun regret, je suis content d'être allé au bout de ce projet, mais les ventes sont décevantes, et pour l'instant je perds de l'argent, le bilan à court terme n'est pas bon, dit l'éditeur. Amphora est une maison très pro dans l'édition du sport, mais Thibaut Inchep a un public de salles de sport qui est sans doute plus intéressé par ses programmes de musculation et de nutrition que par sa vie à lui, pointe un connaisseur du marché. Voilà, donc ça ne suffit pas. Mais, donc Thibaut Inchep, ça n'a pas marché. Mais l'ENA situation, puis surtout Inox, je pense que pour arriver au chiffre de vente qu'Inox a atteint sur le manga, c'est que j'ai pas eu le livre entre les mains, mais est-ce que quelqu'un l'a lu? Ça doit être pas mal quand même. 800 000 ventes, si tu comptes les deux volets. Ça doit être pas si mal, non? Quelqu'un l'a lu ici? Inox, 800K. Le manga est sympa? Me dit Alan. Je suis en train de lire le 2. me dit Filoutre. L'histoire est vraiment bien, me dit Castel. Mon cousin aime bien, me dit Lila Potnareff. L'histoire apparemment est cool. Le prix est aussi beaucoup plus abordable. Il est pas. Pourquoi? Ah, c'est pas trop cher. NBZH. Je l'ai lu, franchement, c'est très bien. Écrit, non, je déconne. Oh! Le manga coûte 10 €, c'est facile à offrir pour Noël. Ok. Ah, Filoutre, c'est le 2 de l'ENA que tu as lu, toi, d'accord. Ok. Les illustrations sont folles, dit Matisse. Ok. Ok. Ah! On finit par le cinéma? C'est mercredi. Mercredi, c'est cinéma. Vous avez été quelques-uns cette semaine à me dire, Samuel, j'espère que tu parleras mercredi de ce film qui est génial et qui parle d'un sujet hyper important. Alors, c'est le premier film d'une femme qui est une comédienne en tant que réalisatrice qui s'appelle Qui brille au combat et qui parle de son histoire familiale, notamment de sa sœur. Qui brille au combat, sa sœur, sa bataille. Effectivement, Mélanie Laurent, Emma Stone, tu as raison, à gauche, qui joue la maman des deux sœurs dans le film. Voilà. Pour son premier long métrage en tant que réalisatrice, Joséphine Japy. Joséphine Japy, c'est une actrice, je ne sais pas si vous la connaissez, je vous montre son visage. Je m'excuse auprès de ceux qui nous écoutent en audio. Et je vous embrasse d'ailleurs, et je vous souhaite de bonnes fêtes. Joséphine Japy, c'est elle, je ne sais pas si son visage vous parle. Comédienne, actrice. Voilà, elle jouait dans Neuilly sa mère, exactement, ouais. Elle a notamment joué dans. Voilà. Fais-leur une audio description. Jeune femme. Elle est née en 94. Brune. Je suis nul, moi, pour décrire. Avec des cheveux longs. Avec des grands yeux noisettes. Elle a joué dans la série Tapis, me dit-on aussi. Voilà. J'adore cette actrice, me dit Tori à la chaîne. Ben voilà, elle est devenue réaliste. Elle a un nez, voilà, elle a un nez, elle a deux oreilles, elle a un front, elle a un cou et une bouche. Vous voyez? Elle. Voilà. Vous voyez à peu près? Elle respire, me dit Shidoshi. Ah, ça, je sais pas, c'est une photo, je n'ai pas cette information. Elle a des dents, je ne vois pas. Je ne vois pas, là. Il faut que je fasse image, peut-être. Elle a des dents. On voit. Ah là, là, si, elle a des dents là. Elle a des dents. Elle a deux yeux. Voilà. Et donc c'est une comédienne, manifestement appréciée par beaucoup. Elle est devenue réalisatrice et avec un film qui a l'air très intéressant, on va aller voir la bande-annonce. Pour son premier long métrage en tant que réalisatrice, Joséphine Japy raconte sans pathos sa maladie génétique dont souffre sa cadette. Voir Qui brille au combat. Qui brille au combat, c'est le nom du film. C'est un peu comme aller se baigner à la plage quand les vagues sont fortes. Tant pis si la mer est froide, tant mieux si la surprise est grande. On entre dans l'eau car on sait qu'après le choc thermique, la suite sera agréable. Voilà. Voilà l'effet que produit le premier film de Joséphine Japy, 31 ans, en tant que réalisatrice. C'est beau. L'actrice de Neuilly ta mère, vous aviez raison, respire, qui incarna l'épouse de Tapie dans la série télé du même nom, porte à l'écran son histoire personnelle. Donc c'est son histoire. Celle de la maladie génétique rare dont souffre sa sœur, cadette, Bertie, le syndrome de Phelan-McDermid, Phelan peut-être, une forme d'autisme sérieux. Elle le fait dans un récit semi-autobiographique, sincère, délicat et remuant, mais tonique comme l'océan. Longtemps, le long métrage a porté pour titre le prénom de cette petite sœur, avant d'en épouser la signification étymologique, car Bertie veut littéralement dire « qui brille au combat ». Ce changement de titre résonne comme un saut dans le vide, celui qui permet au film de s'envoler, et on y découvre la lutte d'une famille unie qui s'efforce de briller dans l'adversité. Allons voir le trailer, peut-être, du film Qui brille au combat. bande-annonce. YouTube.
C'est toi, le vrai cerveau.
Ça, c'est une pub, ça. Swipe. C'est un truc sur Disney. Ok. Je vous le mets. Ça a l'air pas mal. Ok. Je vous montre le son aussi. Voilà. Bande annonce. C'est vraiment un coup de cœur de plein de journaux cette semaine. J'ai vu plein d'articles lundi, mardi, sur le film. Tout le monde était un petit peu séduit. Il y a Tips qui me dit, il est passé au festival d'Arras, j'y ai travaillé, il a été très bien reçu. Poupette 451 nous dit, la famille Bélier bis, en vrai, on pourrait pas avoir un peu plus d'imagination au cinéma français, toujours les mêmes thèmes mielleux. Tu fais chier, Poupette.
Il était une fois un petit monstre d'un autre univers. Elle lui dit, mais tu n'es pas un monstre. Personne te connaît.
Comment ils font tes parents avec ta sœur? Entre eux, ils ont plus de vie, non?
Et moi, tu te demandes pas comment je fais?
Elle peut mourir d'une seconde à l'autre et... Ben, on se débrouille avec ça.
Chaque jour, c'est un miracle.
Vous avez fait un chemin incroyable avec Bertie. Vous vous en rendez compte? On va essayer de poser un diagnostic. On voit. Et on avance.
Faut que tu prennes l'air, Marion. Tu dois penser à toi. Sinon, un jour, tu vas en avoir marre.
Notre vie, en fait, c'est juste s'occuper d'elle. Je lui parle, elle me répond jamais. Je la prends dans mes bras, elle ressent rien. Je me dis que même la mort, ça lui fera pas mal.
Pour tenir, je me dis que son monde, il est merveilleux. Et qu'on en fait partie. C'est comme ça que je tiens.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Mais il est très beau ce film. Il est très très beau ce film. Mais très bien incarné aussi. Je reprends la lecture de l'article. Alors pardon pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, là, enfin vous aviez quand même les dialogues, mais l'incarnation est très forte, quoi. C'est le choix des actrices, notamment pour jouer les rôles principaux, ça a l'air vraiment pas mal. Mélanie Laurent, qu'on vient de voir à l'écran justement, incarne avec ardeur, nous dit, c'est un article dans le Figaro je crois, ouais. Avec ardeur et dévotion, une mère courage qui a renoncé à son travail pour s'occuper à plein temps de sa fille. Elle déclare même avec une pointe de fatalisme, les médecins nous ont dit qu'elle peut mourir d'une seconde à l'autre, on se débrouille avec ça, on a entendu... cette réplique. Rappelons que ça vient d'une histoire vraie, qui est l'histoire de la réalisatrice. Hein. Cette abnégation maternelle est totale, mais ne laisse jamais la moindre place au pathos. Au contraire, cette urgence vitale fournit le carburant du film, capté dans l'immédiateté des situations qui se présentent pour les métamorphoser en pépites de joie et de communion familiale. À l'image de cette scène de bataille d'eau improvisée dans la cuisine qu'on vient de voir, ou la course impromptue de Bertie vers la forêt sans oublier la découverte de la mer sur la côte d'Azur. Pour autant, rien n'est acquis d'avant. Gilles, le père, qu'on n'a pas vu, je crois, dans la bande-annonce, incarné par l'acteur québécois Jean-Yves Cardinal, reste tiraillé entre culpabilité, épuisement et la forte envie de fuir le théâtre des opérations en s'oubliant dans le travail. C'est ce que montre avant tout Joséphine Japy, donc la réalisatrice, qui en fait s'est inspirée de sa propre histoire, de sa sœur cadette. C'est que Bertie, donc c'est l'actrice Sarah Pachou qu'on a vue, formidable, est devenue malgré elle l'épicentre de cette famille en équilibre fragile autour de sept enfants imprévisibles qui accaparent toute l'attention. Chacun tente de vivre comme il le peut en tenant compte des exigences de la situation. Au milieu de cette croisade où de jolis moments oniriques voisinent avec une réalité souvent crue, Marion, la grande sœur aimante de 17 ans, interprétée par Angelina Warrett, révélation, tente de vivre sa vie. Son émancipation passe par une romance toxique avec un homme plus âgé qui ne laissera pas que de bons souvenirs. Dans la lignée des longs métrages alliant résistance et résilience face aux maladies touchant le cerveau, tels que La guerre est déclarée de Valérie Donzelli, qui est un film incroyable, ou Lorenzo de George Miller, que je ne connais pas, ce premier film frappe fort, un petit bijou de sincérité comme une lettre d'amour écrit au cœur de la tranchée. Il y a pas mal ce film. Aldix me dit « Je ne me reconnais dans l'histoire avec un vécu presque similaire avec mon frère. Ma mère a dû arrêter de travailler. Mon père a fui beaucoup dans l'alcool suite à ça. Pas sûr d'aller le voir car j'ai peur de faire remonter quelques traumas. » Samuel Orsuget me dit « Scrooge, as-tu vu la vidéo où J. Le Perse te désingue à propos de questions pour un champion what the fuck ?» J'ai beaucoup d'amitié pour Julien Le Perse. Je le plains beaucoup, en vrai. Voilà. C'était il y a 10 ans. Je pense qu'il s'ennuie un petit peu. Master Caillou, perso plus jeune, j'ai vu un couple dans une situation similaire qui a fini par se séparer, vraiment difficile dans la vie quotidienne. Ils ne l'ont pas supporté. Pop qui, je suis vraiment contente qu'un film sorte sur ce sujet. Certes, c'est un sujet difficile, mais qui concerne beaucoup de familles, souvent invisibilisées, de par le handicap, voire polyhandicap ou autisme. Hein, ce film n'a rien de mielleux à mon avis, mais rempli d'humanité et d'amour, jusque beaucoup de familles vivent dans l'ombre. Il est très beau ton message, Pop qui. Ok. Bon, moi personnellement, j'aurais du temps pour aller au cinéma, j'irai voir ce film. Notamment parce que l'histoire est belle, parce que l'histoire est vraie, parce que je pense que c'est aussi une façon de réfléchir au handicap dans notre société, la façon dont nous nous organisons pour inclure les personnes en situation de handicap dans notre société. Donc ça peut être aussi un élément de réflexion par rapport à ça. Et puis l'incarnation par les actrices, là, a l'air quand même assez incroyable. Voilà. Donc, j'irai voir ce film. Faut que je trouve le temps, quoi. Et ça sort aujourd'hui. Ça s'appelle « Qui brille au combat ?» Comme vous, vous avez brillé dans le chat encore aujourd'hui, bande de beaux gosses. Elle est courte, cette revue de presse, dis donc, Samuel Etienne, 2h36. C'est fou, ça. Hein, comment on se fesse. Tu es fou que je sois aussi rapide, moi. Ben, dis donc. Hein ? Ça tryhard en ce moment, hein. Bon, mais il y avait plein de belles choses. Du coup, je vais aller rejoindre la famille, parce que la famille m'a rejoint hier, en vacances. Je compte bien vous proposer une revue de presse demain. J'aimerais beaucoup, comme le vent demain matin tôt, j'ai des journaux pour vous faire... Alors, il n'y aura pas tous les journaux, hein, 1er janvier, je pense, mais... Qu'il y ait des journaux pour vous faire une petite revue de presse du 1er janvier 2026, quoi. Est-ce que ce soir à minuit, je serai en live pour vous souhaiter la bonne année ? Ça va dépendre. Parce que a priori, j'aurai les journaux à lire. Et puis, ça va dépendre aussi de la famille, parce que je vais d'abord rester avec ma famille. Si la famille dort, je passerai au studio pour faire un petit coucou. Je verrai. Mais sans garantie. Et puis, demain matin, la revue de presse. Hein ? Ah, si vous allez sur les champs, il y a peu de chance. Ah oui, si on va sur les champs. Alors après ce que les enfants vont tenir jusqu'à minuit pour voir le feu d'artifice, ça, je sais pas. Mais ouais, évidemment, s'ils ont suffisamment d'énergie pour aller voir le feu d'artifice, ils seront prioritaires. Merci Piotr. Donc, on fait au feeling. En tout cas, on essaiera de faire un stream demain, ça c'est sûr. Demain, on sera jeudi. Il y aura aussi une revue de presse vendredi, c'est sûr. Coucou, Captain Oui, merci d'être avec nous. C'est tous les matins, Ting Mei, ouais, du lundi au vendredi. Et, grande nouveauté, à partir de samedi après-midi, nous lançons, pour la première fois sur cette chaîne, la revue de presse des bonnes nouvelles. Vous en avez marre, hein, que je vous impose tous les matins, depuis 5 ans, les mauvaises nouvelles, voilà. La litanie des mauvaises nouvelles qui émaille la marche du monde, eh bien, je vous mets patiemment de côté toutes les nouvelles un peu positives, sympas, les initiatives cool, les news porteuses d'espoir, et je vais essayer de vous en faire une revue de presse le samedi après-midi, la revue de presse des bonnes nouvelles. Voilà. merci pour ce matin. Voilà. On va faire un raid maintenant qui est en live. Alors Twitch. Il y a plein de gens en live. Ah, c'est souvent lui. Ok. Qui nous raid. Ça, je regarde tous les gens qui sont. Ah, oh, il y a aussi, oui. Oh oui. Il y a du IRL aussi. Il y a du IRL. Je regarde. Il y a plein de trucs sympas. Ah. Les amis. Oh, merci Toto. Bisous à Luna. Les amis. 4 viewers. Merci MMG pour ton message. Merci MMG pour ton message. 4 viewers. Pourtant sur une chaîne de qualité. On va aller donner de la force. Voilà. Le titre du stream, c'est « On réalise des pâtisseries extraordinaires en se marrant la gueule, les amis. Hein » On est sur un stream de cuisine. Hein, on parle de bonne bouffe, de réveillon. C'est Monsieur Bardino, mesdames et messieurs. Allez, très bien. Le raid qui s'impose. Bardino. On réalise des pâtisseries extraordinaires en se marrant. En se marrant la gueule, c'est écrit. Il est très en forme, il est très sympathique ce streamer, je l'ai rencontré, j'ai découvert il y a quelques mois, je le trouve très sympathique. Il faut qu'on cuisine ensemble un jour, on s'est dit ça. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle fin d'année 2025, un super réveillon ce soir, que vous soyez accompagné ou seul, une soirée bien chill, bien cool. Et puis je vous dis à ce soir ou à demain matin, enfin très très vite quoi. Des bisous, bande de beaux gosses. C'était la dernière matinée Étienne.